Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mathieu Evin, le fondateur de Bandy. Si vous ne faites pas encore partie de la bande à Bandy, Mathieu et moi sommes là pour vous parler de l'histoire de l'entreprise et de celui qui a été la muse de ses maîtres, un toutou tout roux prénommé Bandy. Mathieu reviendra pour nous sur son parcours, son arrivée à Paris depuis sa Bretagne natale, les bancs de l'ENSIE et la création de sa première boîte dans l'informatique. Nous parlerons également de son expérience dans le monde du brand content et de la petite annonce postée un jour sur Facebook par l'association Remember Me qui va conduire Mathieu à construire toute une communauté de chiens et de chats hyper stylés autour d'une marque d'accessoires pour nos animaux de compagnie. Des premiers prototypes cousus par la maman de Mathieu à maintenant, il s'en est passé des choses. C'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu.
Salut Marjolaine.
Merci beaucoup de me recevoir chez Bandy à Paris. Tu le sais, on en a parlé par téléphone. J'ai une petite question traditionnelle pour commencer tous mes épisodes de Slice. J'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit.
Ouais, c'est une bonne question, c'est une très bonne question pour commencer. Je crois pas que j'ai de réponse directe à cette question. J'avais envie de construire des choses.
Je crois que j'avais envie de construire des choses.
J'ai toujours eu cet esprit un peu de... De voir les choses, comment elles pouvaient se mettre entre elles, de construire des trucs. Je faisais beaucoup de... Quand j'étais jeune...
De mécano ou de trucs comme ça.
Ouais, je faisais beaucoup de mécano. J'étais un fou de mécano.
Ok.
Donc, je pense que j'avais envie de construire des choses. Je crois pas que j'avais de métier en tête. Ça me revient pas comme ça. Mais ouais, je crois que ce désir de construire des choses, ça m'a toujours... Ça m'a toujours passionné.
D'accord, même pas, tu sais, il y a des garçons, quand tu les interroges, ça... alors moi, je voulais être pilote d'avion de chasse, pompier, militaire, non, pas un truc comme ça, non?
J'ai eu mon petit moment, j'ai eu mon petit moment pilote d'avion de chasse, je dois l'avouer.
T'avais regardé Top Gun ou...
Je sais pas, ça m'a toujours attiré ce truc d'être dans les airs et de maîtriser un truc que personne ne maîtrise et d'avoir... Tu sais,
la sensation, les trucs comme ça.
Mais ouais. C'était une passade. Et c'est pas resté. Et c'est pas un truc qui m'a marqué.
Plus que ça.
Ouais, je crois pas. Je demanderais à ma mère s'il y avait un truc qui revenait.
On ferait une petite note dans l'article de Slice en disant sa maman a dit. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu suis un cursus scolaire normal, classique, jusqu'au lycée. Quelle filière tu choisis
Moi, j'étais très maths.
T'étais très maths.
J'étais très maths. Okay. J'étais un fou de maths. J'étais un fou de maths, un fou d'informatique. On avait des ordi à la maison et je me souviens que je les cassais tout le temps parce que je faisais toujours des trucs de fou dessus. Installer des trucs. Rentrer des disquettes, installer des programmes. Ça rendait fou mon père, je crois. Mais ouais, j'étais un fou de maths. Mes parents m'avaient même dit un jour si t'as 20 de moyenne en maths on te mettra l'ordinateur dans ta chambre, tu vois un peu le truc.
Ouais, t'as eu 20 de moyenne ou pas?
J'ai eu 19,5 je crois.
Ils sont même pas un petit peu d'accord.
Ouais, c'était comme ça.
Ok, non, c'était 20, c'est... le contrat c'était 20. Ça t'apprend la leçon, c'est 20, t'as pas 20, et ok. D'accord. Donc tu fais S, tu passes ton bac, je suppose.
Je fais S, option maths.
Ouais.
Je passe mon bac, mais j'étais plutôt du genre à me dire, ouais, je vais y arriver, donc je force pas le destin.
Ok.
Je vais surtout pas approfondir les trucs dans lesquels je suis nul. Nul en histoire géo, nul en
En
philo.
français, ouais, en philo, ouais.
Français, j'ai été nul. Et quand j'ai
Ouais.
passé le bac, je sais pas, éclair de génie et de mémoire, j'ai eu 18 à l'écrit, 16 à l'oral, tu
Ah,
vois.
très bien, ouais,
Ouais.
pas mal.
Ouais, incroyable.
Un
Franchement,
malentendu, tu sais,
quand
déjà.
j'ai vu mes notes, je crois que tout le monde est
L'arnaque, tu
tombé de
sais,
sa chaise. Ouais.
l'arnaqueur,
Donc, je sais pas, j'ai eu un éclair de génie à ce moment-là.
quoi.
Et non, après, je passe mon bac S, option maths. J'ai des super notes en maths, physique,
Ouais.
SVT.
Ça te sauve en fait si tu misais pas tout sur le
Ouais, ça me
reste.
sauve. Après, j'étais pas mauvais dans le reste,
Oui.
mais
C'était bien d'avoir
j'étais
assumé
moyen,
quand même.
quoi.
Voilà,
Ouais.
ok. Ok. Et tu savais quelle école tu voulais faire, vers quoi tu voulais te tourner
Bah, moi, je voulais construire, donc la voie royale, c'était d'être ingénieur, donc,
Ouais.
et la voie royale, c'était de faire prépa. Donc, j'avais fait tous mes dossiers de prépa avant de passer le bac.
Tu savais ce que c'était la prépa? La
On m'avait dit,
prépa,
hein, tout le monde m'avait dit, c'est
ça
costaud,
va être sympa.
mais t'as des facilités en maths, ça va le faire.
Ouais.
Donc, je fais mes dossiers de prépa, je suis accepté avant de passer le bac en prépa.
Ok.
Donc je sais que je vais aller en prépa, donc le bac je le fais un peu détente.
Ouais.
Je passe mon bac, ça se passe plutôt bien, et puis après je vais en prépa. Et là c'est une autre histoire.
Alors la prépa. T'étais en prépa où à Paris? Tu
Non,
viens
j'étais
d'où
à
toi?
prépa Châteaubriant à Rennes,
À Rennes.
en
Ah, tu es
Bretagne. Je suis
breton.
breton,
D'accord.
exactement.
Comment on se retrouve les bretons?
Ouais. C'est la mafia bretagne, il y en a
C'est
beaucoup.
ça. Il y en a beaucoup, chers Slice, ouais, les bretons. Donc, ok, prépa. Premier jour, tout sourire.
Ouais,
Et
premier jour tout sourire, et là
après.
je tombe sur toutes les brutes, quoi. Les mecs
Qui était bon, mais
qui
bon
étaient
plus
dieux
plus, quoi.
vivants en maths, en physique. Et puis ça démarre très fort, ça va très très vite, avec des trucs, tu comprends pas, mais c'est pas grave, on passe tout de suite à
Faut
la
y aller,
suite.
ouais. Faut
Et
continuer,
ouais.
faut rouler, ouais.
Et avec des mecs qui comprennent comme moi je comprenais en terminale,
Ouais.
et moi je comprends rien. Enfin, c'est pas que je comprends rien, mais c'est que j'ai un peu plus de mal.
Du
Et
mal à suivre, ouais, à raccrocher les wagons.
là où j'étais maxi détente en terminale, je me retrouve dans une position où je suis moins détente, où il faut que je bosse plus. Et je me retrouve face à des mecs qui. Ouais, ça, un truc qui m'a marqué en prépa, c'est le prof qui arrive dans la classe et qui dit: Vous êtes prêts, c'est parti. Qui se retourne et qui passe 1 heure de son temps à gratter le tableau. Et il se retourne même pas. Et je me souviens d'un jour, et ça c'est une anecdote assez incroyable, et à un moment il bloque, il était sur le tableau, il bloque sur un truc, sur une équation, je sais pas quoi. Il se retourne et il dit: Ah, j'ai dû faire une erreur quelque part. Et il y a un mec qui lève la main et qui dit: Ouais, regardez là, tout à gauche du tableau, 12e ligne, 4e X, vous avez oublié un Y. Et là, je fais: Waouh,
Où est-ce
où
que
est-ce
j'ai
que je
mis mes
suis?
pieds?
Ouais. Donc, franchement, prépa, dur. C'était dur. C'était hyper cool parce que ça apprend à vraiment travailler, ça apprend une rigueur et tout. Mais très, très dur. Très, très dur. Donc, je fais 2 ans de
Ah, tu
prépa.
fais les 2 ans quand
Ouais,
même, tu décides pas
je fais les deux ans.
de.
Non, non, je lâche
Ouais,
pas.
t'as pas lâché
Je lâche pas.
l'affaire.
Je suis pas du genre à lâcher.
Tu pourrais, tu sais, en
Ouais.
prépa. Moi, j'ai fait prépa littéraire dans un très bon lycée parisien. Et en fait, moi, j'ai arrêté quand la fille a écrit tout le tableau comme toi, mais en grec. En nous disant, mais vous savez pas lire le grec ancien? Va
Bah, moi, pour
falloir
moi, c'est.
remédier à ça. Je fais, non.
Pour moi, les maths étaient
Et je me
transformées
suis.
en grec à certains moments. Hein.
Moi, je fais, non, allez, salut les mecs. C'est bon, je me casse. Ok, donc tu tiens les 2 ans.
Ouais, je tiens les 2 ans, je passe les concours
Oui.
et je me retrouve à avoir des écoles très
Ouais.
chouettes. Et je choisis une école qui s'appelle l'ENSIIE, qui est une école d'informatique, qui a la double spécialité informatique et finance.
Ouais, alors c'est l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et
Ouais.
l'entreprise. Ok, donc tu
Donc,
rentres
ouais, je
là-dedans.
rentre
Dans
là-dedans.
cette école, elle est où cette école?
Elle est à Évry-Courcouronnes dans le 91.
Ah oui, d'accord, en
Ouais.
région
Ouais.
parisienne, donc tu quittes ta
Je
Bretagne.
quitte la Bretagne, je suis trop content. Je regarde sur une
Nouvelle vie.
carte en tant que bon breton, je
Ouais.
vois Évry-Courcouronnes et je me dis, Bah, c'est Paris, en fait. Bah, oui. Breton, hein. Oui, breton, oui, tu connais oui, pas,
c'est plus proche que... Oui, c'est plus proche de Paris que de... Oui, oui, on va dire ça, oui.
Puis t'arrives à Paris, puis quand oui. tu te rends compte qu'il faut prendre le RERD tous les matins pour aller à l'école, tu te dis non, en fait, c'est pas Paris.
C'est pas du tout Paris. OK.
Des très bonnes écoles. Très ouais. bonnes écoles. Et en fait, je pense que beaucoup d'ingénieurs le diront, quand tu fais 2 ans de prépa et que tu bosses comme un fou, t'arrives en école, tu souffles et t'es... T'es pas détente parce que c'est quand même y a quand même du travail, mais t'as plus, tellement appris voilà. à travailler vite et
t'as
bien.
Des automatismes voilà ouais. de travail, donc c'est peut-être plus facile, plus simple quand t'as eu l'entraînement ouais. intensif pendant 2 ans.
Donc j'arrive en école et là je souffle.
Et là t'apprends quoi dans cette école? C'est quoi
Bon, on apprend plein de trucs. On apprend toutes les bases de l'informatique, donc okay. Les bases de données, des comment coder certains trucs okay. avec certains langages.
Des langages, ouais.
Voilà, t'apprends un peu comment on code des sites internet, t'apprends plein de trucs, tu t'approfondis ton anglais, et en première année, on te fait un truc un peu générique, et après tu vas apprendre des spécialités. Et donc, dans cette école, c'était soit option... informatique, soit option finance.
Ok.
Avec soit le cursus informatique où tu te retrouves à faire de la recherche ou des programmes informatiques, plutôt développeur. Et la finance où t'es pas trader, mais si j'ai bien tout compris, à l'arrière des salles de marché, tu t'occupes de faire les logiciels qui calculent les risques, etc.
Ok.
Donc, super cursus.
Et donc toi tu choisis informatique.
Moi je choisis l'informatique parce okay. que c'est toujours ce qui me passionne.
T'as une idée de métier déjà? Est-ce que ça, parce que ingénieur informatique c'est très très vaste. Est-ce que tu cibles un petit peu vers où tu voudrais te diriger ou non pour l'instant tu fais de ton école et on verra après
en fait,
ce qui se présente.
Je sais pas ce que je veux, mais ouais. Mais je suis tellement content d'avoir un rythme moins soutenu et en même temps je me tourne presque les pouces
ouais.
que je commence déjà à bosser.
Ok.
Ouais.
D'accord.
C'est à ce moment-là que je monte ma première boîte.
Ah oui.
Ouais. Qui s'appelle Around Studio à l'époque, okay. avec un de mes potes de. Enfin, je la monte tout seul d'abord, et après je dis à un de mes potes d'école de me rejoindre.
Ok.
Et notre truc, c'est de développer des sites internet pour tous les gens qui sont autour de nous.
Ok. Dans un premier temps. Ok.
Donc on développe des sites internet pour des restos, pour un blog pour une blogueuse à l'époque. Pour
une blogueuse qui existe encore.
Ouais, qui existe encore, ça s'appelle Marie Création,
Lady
Barbery. On fait son blog, on fait un autre blog pour une de ses copines. Voilà, on s'amuse à créer des...
D'accord, c'était de l'amusement en fait, c'était pour avoir des sous. Est-ce que tu as vraiment... Tu sais, parce que l'entrepreneuriat, parce que je pose cette question dans Slice, c'est but. Quand est-ce que naît ton envie d'entreprendre, vraiment avoir ton entreprise? Est-ce que là, c'est vraiment, j'ai envie d'être patron d'une entreprise ou c'est juste, je sais faire des trucs, je vais développer pour avoir de l'argent, ça me fera mon argent de poche?
J'ai pas conscience que j'ai créé une entreprise. J'ai pas conscience que je peux être patron de boîte.
Ouais.
Je crois que c'est pas ça qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est de mettre en pratique tout ce que j'ai appris,
okay.
d'arrêter de faire du théorique parce que quand t'es en prépa ou quand t'es en école, les premières années, tu travailles sur des cas qui sont pas vraiment concrets.
Tu touches pas vraiment...
Et moi, j'ai envie d'approfondir tout ça et j'ai envie de créer des trucs. Donc, okay. Et je réfléchis pas du tout sous ce prisme entrepreneuriat. On fait ça, on gagne de l'argent, on s'amuse à faire des trucs que parfois certaines personnes savent pas faire alors que nous on est en école et
ça, c'est vite fait quoi.
Ouais,
c'est...
alors pas vite fait mais
c'est plus facile
pour nous, c'est assez facile quoi, et puis on découvre, on apprend en faisant
sur le tas. Ouais,
ouais. Et je crois qu'on s'amuse beaucoup et on finit par pas trop aller à l'école et à faire surtout nos projets quoi.
D'accord. Et il y a aussi, j'ai vu sur ton profil qu'il y a aussi une junior entreprise, Diez.
Ouais.
Tu participes à ça aussi?
Ouais, la junior entreprise, je pense à Marie dans ton podcast qui en parlait aussi, je crois.
Ouais.
De chez Puissante.
Oui.
Ouais, junior entreprise, c'est dans l'école d'ingé, t'as un groupe d'élèves qui s'occupe, qui a créé une asso et qui va bosser pour des boîtes,
clients, ouais.
Ouais, des clients qui viennent solliciter cet asso parce que ça coûte un peu moins cher et parce que les élèves sont compétents. je bosse un peu là-dedans, mais je me rends compte que c'est plus facile de faire mes trucs à moi. Donc, j'ai bossé un peu, j'ai dû faire deux projets, je crois. Et très vite, j'ai fait mes projets à moi parce que c'était plus marrant.
C'était plus sympa.
Il n'y avait pas tout ce truc d'assaut où il fallait rendre des comptes aux gens. Moi, j'avais mes clients, je rendais des comptes à mes clients et puis je m'amusais comme ça.
D'accord. Et pour monter ton entreprise donc à Around Studio, tu t'es entouré ou tu as vraiment fait ça au feeling comme
non,
ça
moi, je fais, moi, je voulais faire des sites donc... je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. On me dit fais un truc auto-entrepreneur, ça marchera très bien.
Ouais.
Je fais le truc auto-entrepreneur.
Sur le net, rapide.
Ouais, sur le net, rapide. Mon pote fait auto-entrepreneur aussi. On a deux façons de facturer. On met ça sous le même nom et puis on part comme ça.
Ok.
quand soit c'est lui qui prend le contrat, je l'aide, soit c'est moi qui prends le contrat. Et on s'amuse comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y avait pas vraiment d'esprit entrepreneur
à
créer une boîte. On fait nos trucs, on demande de l'aide à droite à gauche quand
on
en a besoin.
Oui, quand on sait pas, ouais, ou quand il y a
besoin. Et puis on avance comme ça, quoi.
Ok, et donc tu disais que tu n'allais plus trop à l'école. Et ça dure combien de temps?
Non, mais je vais pas trop à l'école, quoi.
Il faut pas faire ça.
Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça.
Faut suivre les cours.
faut aller en cours, mais moi je vais pas trop à l'école. Je récupère les cours des autres.
Ouais, avec des copains sympas.
Je bachote un peu avant les examens. Puis je m'en sors comme ça, quoi.
Oui, ça se passe bien.
Je passe d'année en année, je pars doubler. J'ai eu mes années, j'ai certainement pas eu des notes extraordinaires, je me souviens même pas d'ailleurs combien j'ai eu.
Mais voilà. Mais ça se passe quoi.
Ça se passe,
tu continues à avoir tes contrats, ta petite boîte en auto-entrepreneur, ça se passe bien, mais à un moment donné, ça se finit l'école.
Ouais, la petite anecdote, c'est qu'en troisième année, stage de fin d'études, je voulais absolument pas aller dans une boîte parce que j'avais la mienne et que je me faisais bien comme ça. je vais voir le directeur de l'école.
Je m'auto-emploie.
Non, attends, ben encore mieux que ça. Je lui dis, ouais, j'ai ma boîte et tout. Est-ce que je peux faire un truc dans ma boîte, quoi? Okay. Il me dit, non, impossible. Je lui dis, sinon, j'ai qu'à faire votre site internet. Il est nul, le site internet de l'école, je le refais, quoi. Et il me dit, ok. Il me dit, ok, je deviens ton maître de stage.
Trop bien.
Donc, le directeur de l'école devient mon maître de stage. Je fais pendant mon stage de fin d'études tout le site de l'école, donc autant te dire que pas de bureau, j'étais en vacances à faire le site de l'école, j'étais trop bien. Mm-hmm. Et je fais ce stage de fin d'études, je rends le site et ils l'ont utilisé à un moment, et puis très bien, j'ai eu mon diplôme et je suis parti quoi.
Ok, tu valides.
Ouais.
Et donc là, tu fais quoi? Tu te dis que tu vas continuer avec Around Studio ou tu cherches du boulot, quelque chose de plus conventionnel, traditionnel, on va dire?
Non, à un moment, je me dis, il faut peut-être s'ouvrir les chakras, aller voir ailleurs, voir le monde de l'entreprise. Et ma sœur, à l'époque, bosse dans une boîte qui était une boîte de maroquinerie qui se lançait en ligne avec un très grand entrepreneur français aujourd'hui qui s'appelle Marc Ménazé, qui avait monté ça. Et elle m'appelle et elle me dit, ça tombe super bien, ils cherchent des gens. Je lui dis, attends, moi je n'ai pas du tout envie de bosser dans la maroquinerie, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Elle dit, si, vas-y et tout.
Ça peut être intéressant, ça t'ouvre les chakras.
Ouais, les chakras, mais bon, la maroquinerie, c'est quand même très loin de ce que je faisais, tu vois.
C'est un peu éloigné, mais bon.
Donc je ne cherche pas trop à comprendre, j'y vais.
Ouais.
J'y vais, mais vraiment sans me dire que je vais pour chercher un travail, je vais pour me dire je suis sympa, je fais plaisir, je vais passer un entretien, tu vois.
Voilà, je t'en prends.
Ouais. J'arrive en entretien et là il m'explique que en fait c'est pas du tout sur la maroquinerie qu'ils cherchent des gens, c'est qu'en fait ils ont monté un projet qui s'appelle Menlook, qui est un site de mode en ligne pour les hommes, qui dit en fait le projet c'était de dire il y a beaucoup de choses pour les femmes, il y a très peu de choses
pour les mecs,
ou en tout cas il y a plein de marques mais elles sont pas réunies à un endroit. Que ce projet était déjà né, qui vivait un peu, et que en parallèle de ce projet, ils voulaient monter tout un écosystème de contenu pour renforcer leur légitimité sur les hommes, quoi. Donc monter toute une partie blog à l'époque qui était très en vogue, donc de contenu créé par leurs soins et de fédérer autour d'eux plein de gens qui ont des blogs, donc les anciens influenceurs.
Les influenceurs mode homme,
voilà.
Ou dans la sphère homme, masculine, on va dire.
Mais qui étaient à l'époque influents grâce à leur blog et non pas grâce à leurs réseaux sociaux encore.
C'est vrai que le blog, maintenant, c'est un peu...
Ouais, le blog, on l'a un peu oublié. Hein.
Ouais. Ouais. Même des grandes blogueuses féminines, je pense à Hélène, mon blog de fille, ouais. qui à l'époque, elle avait un blog de où, enfin voilà, tous les jours.
Ouais, à l'époque, c'était Garance Dorée, chez voilà, les femmes.
Garance ouais. Dorée. Ouais. Ah ouais.
Et en fait, il y avait plein de petits pour les ouais. mecs, mais il n'y avait pas de... Et ils voulaient fédérer du coup tous ces ouais. gens-là.
Tous ces blogueurs.
Tous ces blogueurs. Pour que quand une marque vienne les voir et leur dise ben moi j'ai envie de faire de la pub, ben qu'on, au lieu d'être juste présent sur le site qu'ils allaient créer, d'être mm-hmm. présent sur tous ces sites-là et avoir de la puissance.
Ok.
Donc il me dit on cherche quelqu'un pour travailler sur la partie technique et faire autre chose parce qu'en fait c'est le projet n'existe pas.
Ok. S'inventer, ouais. inventer ton métier ouais. quoi en gros.
Donc sous-jacent à ça il y avait du technique et un peu de marketing. Et moi, je me dis, bah, trop bien parce qu'il est hors de question que je sois dans un bureau à faire que de l'informatique, ouais. Que de la base de données, de la recherche, des trucs comme ça.
Ouais.
Et donc, j'y vais.
Mais j'y vais et le côté boîte. Marketing, tu te dis pas...
Si tu veux, moi, j'ai toujours eu ce côté un peu créatif. Quand j'avais ma boîte là, en école d'ingé, je faisais les sites, mais je faisais pas que le code, je faisais aussi un peu le design.
Ouais.
Donc j'avais toujours ce côté un peu créatif, je savais pas trop ce que c'était, j'avais pas de formation, mais je me suis dit
on fait ça, voilà. Alors, si ça plaît, ouais. Allons-y, voilà. Ok.
Et du coup, je me retrouve un peu dans cette structure qui se crée un peu homme à tout faire, donc aussi bien la partie technique que la partie on va faire des partenariats, que des parties on va essayer de se développer. Évidemment, Marc en lead tout le temps parce que il avait la vision et qu'il savait où il allait. Et donc, on développe un site qui s'appelle Manly, qui est un site de contenu pour hommes. On fédère autour de nous plein de blogs, comme un camion qui existe encore, des topitos qui existent encore. Et donc, se crée une espèce d'énorme régie masculine avec des sites de contenu qui sont quand même assez forts. On fait à l'époque un partenariat avec les éditions Jaloux. C'est l'officiel, la revue des montres, Jalouse Magazine, et on leur développe tout leur digital. Donc en fait,
ça prend de l'ampleur rapidement, quoi. C'est
ouais, ça prend de l'ampleur, ça va vite. On s'éclate, on fait plein de choses. Moi, j'apprends une tonne de choses sur comment on monétise du contenu, comment on gère plein de gens qui arrivent sur un site et où il faut tenir la charge de gens qui arrivent.
En fait, ça plante.
Exactement.
Comment... Ça lag, qu'on ait du mal à charger les badges et tout ça. Ouais.
Que le site charge bien, que la pub charge bien pour que tu te fasses rémunérer. Ouais. On crée toute la galaxie de sites des éditions Jaloux. Et voilà, et donc le truc prend de l'ampleur, devient en fait une boîte à part entière à côté de Menlook qui se développe aussi.
Ok.
Et à un moment, Marc dit bon, ça devient tellement gros que je vais engager quelqu'un de senior pour gérer toute cette partie édito.
Ok.
Donc là, il embauche Pierre-Étienne. Qui venait de Cdiscount, gros background marketing. Et avec Pierre-Étienne, je me mets à développer toute cette partie média. On devient Meninvest Media, donc le groupe masculin donc dédié à la cible masculine, le groupe média dédié à la cible masculine. Et on développe pendant, je crois, au moins 2 ans. Tout ce groupe média. On rachète Auto News à Lagardère, un site de bagnole. On rachète 11 Mondial au tribunal de commerce et on commence à faire du papier en faisant des magazines de foot.
Ah ouais, d'accord.
On développe plein de projets de contenu et on devient un peu incontournable sur la cible masculine. Il y avait, je crois, 80% des mecs qui passaient au moins sur un de nos sites par mois. Quoi. Donc, c'était monstrueux en termes de puissance pour les hommes.
Vous étiez combien dans cette... Parce que tu es arrivé au tout début, en fait.
Ouais, moi, je suis arrivé au tout début. J'étais junior, donc j'étais pas... j'étais manager un peu parce que forcément, j'ai développé des équipes aussi bien techniques. J'étais pas trop sur l'édito, donc il y avait une personne qui chargeait de l'édito. Et on était, on devait être une trentaine à l'époque.
Ah ouais.
Ouais, donc trentaine de salariés, plus des pigistes de partout pour faire vivre. Une galaxie de sites énorme avec évidemment plein de gens qui bossent là-dedans. Et voilà, et donc c'était l'époque où en fait on se rémunérait avec de la publicité, tu sais, en bannière qui s'affiche
ouais.
à côté,
oui,
que tout le monde vomit maintenant.
C'est pas très. Ouais. C'est pas du plus bel effet, on va dire. C'était le début, c'est... Ouais. C'était la bonne époque.
Ouais. Et justement, on vit ce tournant de ben, des gens qui commencent à comprendre que c'est de la pub et que ben on va pas leur faire à l'envers, que s'ils cliquent dessus, ils vont se retrouver sur un site d'annonceur.
Ouais.
Donc un peu le déclin de la pub tradie.
Ouais.
Et des annonceurs qui commencent à nous poser des questions et à nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quoi. Et c'est là que naît le brand content, à ce moment-là que naît oui. le brand content, où les marques commencent à comprendre qu'il faut créer du contenu autre que le contenu publicitaire. Mm-hmm. Nous, on capte ça tout de suite. Et comme bah, on est dans un écosystème où on a une tonne de journalistes dans tous les secteurs, bah, on commence à faire du brand content. Et on commence à dire aux gens, bah, on va faire du contenu soit très éditorialisé à votre... où on va parler de votre marque sur okay. notre galaxie de site,
okay.
soit bah, on va faire du contenu en marque blanche pour vous, donc c'est-à-dire que c'est nous qui allons l'écrire, vous allez le poster où vous voulez, mais,
voilà.
mais c'est du
avec
contenu à forte valeur ajoutée.
Votre machin, et puis ouais. voilà. Ok.
Et ça, les gens vont plus le lire, vont plus interagir avec, et ça va mieux marcher.
Ouais, c'est quelque chose de ludique qui te fait réfléchir et pas juste ta vieille photo qui apparaît sur le côté, genre
exactement.
Ah, super, génial.
Exactement. Donc on se met à faire du brand content. Un petit peu au départ, et moi à l'intérieur de ça, je comprends que en fait le brand content, enfin on comprend tous que le brand content va devenir la publicité traditionnelle de demain. Mm-hmm. Et on refait un spin-off de la boîte, enfin
okay.
on refait une boîte dans la boîte,
une
en
boîte
fait,
dans la boîte.
où on crée une agence qui est une agence de brand content,
okay.
qui dans un premier temps est dédié à la cible masculine, mais on comprend très vite qu'en fait on a la capacité de faire pour
oui,
tout le
faire
monde.
Pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et pas... Après, tu t'y connais plus dans ces milieux-là parce qu'on ouais. les avait sous la main, tout ce qui concerne l'automobile, le foot, comme tu disais. Parce que moi, je pensais que c'était que la mode, mais j'avais pas toute cette vision. C'était, tu as parlé des ouais. montres, des voitures, du foot, etc.
Exactement.
Donc c'est vraiment un large spectre.
Ouais.
Donc, et en fait, cette agence dans l'agence que ouais. vous créez.
Va s'appeler Men Square Agency.
Voilà, c'est Men Square Agency, ouais.
Puisqu'entre-temps, Men Invest Media est devenu Men Square.
Voilà, voilà. Ils ont fait une levée de fonds.
On a fait une levée de fonds. On s'est complètement, en termes d'image, désolidarisé de Men Look.
Ouais.
On est devenu une vraie boîte qu'on a renommée Men Square. Et dans Men Square, je crée Men Square Agency, qui est une agence de brand content et de social media, puisque le brand content passait par le social media. Qui est au départ dédié aux hommes et qui très vite va se retrouver à faire du contenu pour tout le monde sous la marque Men Square Agency. Et on se rend compte que bon, il n'y a plus trop d'intérêt à s'appeler Men Square.
Ouais.
Et on se renomme en Social and Stories.
Donc tu disais donc à la base Men Invest Media qui devient Men Square et ensuite Social and Stories.
Ouais.
À quel moment toi tu prends des parts là-dedans?
Bah, en fait, à partir du moment où c'est moi qui ai. Qui a incubé l'agence dans le groupe média.
D'accord.
Et que je prends un peu le lead là-dessus, on me propose de prendre des parts. Donc évidemment, j'étais encore une fois hyper junior parce que tout ça s'est fait en l'espace
en
de
quelques années, ouais, c'est ça,
3-4
ouais.
ans.
Ouais, c'est ça.
Donc je suis minoritaire. Il y a Pierre-Étienne qui est majoritaire et qui est lead et qui est pour le coup hyper senior. Mm-hmm. Et voilà, on fait l'aventure à deux avec un fonds d'investissement qui nous suit et toujours le groupe Men Look qui a une participation dans la boîte.
Ok.
Mais moi, je suis associé, mais je suis surtout associé opérationnel. Je m'occupe pas de... À ce moment-là, j'ai
finance,
aucune vision...
Sur les trucs comme ça, d'accord, financière,
sur la levée de fonds, sur la finance, je gère pas.
Ouais, toi, t'es vraiment celui qui fait.
Ouais, exactement.
Le faiseur.
Ouais, exactement.
Donc, avec cette société, donc Social Stories, j'ai vu que tu gères... donc, c'est une agence de pubs, The Couple, Zadig & Voltaire, Bache, Sandro, Mache, Sofinco.
Ouais.
C'est vaste.
Ouais, mais en fait, on devient spécialiste de brand content.
Ouais.
et spécialiste des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, des premières marques commencent à nous faire confiance dans le prêt-à-porter. Donc, les premiers, c'était Sandro, je crois. Commence avec Sandro à gérer toute la partie sociale.
Concrètement, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, qui ne sont pas du tout dans le monde de la pub, je suis Sandro.
Ouais.
C'est pas Sandro. Je suis Sandro, je viens te voir et je dis, bah, je t'embauche. Qu'est-ce que tu fais pour moi?
En fait, ils viennent voir l'agence en disant, on a capté qu'il y avait les réseaux sociaux qui se développaient. Nous, on a plein de trucs à raconter parce qu'on fait des campagnes de pub traditionnelles, on a des shootings, on a une histoire finalement. Mm-hmm. Mais on fait comment pour mettre tout ça sur les réseaux sociaux, pour que ça intéresse les gens,
pour valoriser toute l'information autour d'une marque, en gros.
Et on fait comment pour le monétiser, mais comment on fait pour mettre de l'argent, pour amplifier le message et pour toucher encore plus de gens.
Oui, parce que, et puis mine de rien, monétiser d'une certaine façon, parce qu'en intéressant les gens à la marque, ça crée un esprit aussi de corps, j'imagine, un esprit d'appartenance, quelque chose comme ça.
Exactement. Donc nous, à partir de ça, nous, on prend tous les assets de la marque, on regarde les temps forts, et puis on réfléchit à quel contenu on va créer, ou alors en tout cas comment on va formater le contenu qui existe déjà pour l'adapter aux réseaux sociaux, au discours des réseaux sociaux, pour avoir un discours qui est cohérent sur la durée et qui transmette les valeurs de la marque, et pour faire en sorte que ça like, que ça commente et que ça touche les gens, quoi.
Ok.
Un bon exemple, c'est on a bossé pour The Couples à un moment. Et The Couples, ils nous disent, ok, on a un truc, on veut faire un truc avec les influenceurs.
Ok.
Et que on a identifié Emily Ratajkowski.
Emrata.
Et on a envie de bosser avec elle.
Ok.
Et nous, on dit, bon, bah, c'est extraordinaire, parce qu'Emrata, à ce moment-là, elle va en poupe, elle a 1 million d'abonnés, ou plus d'un million.
Elle avait déjà fait son clip avec Robin Chic, comment il s'appelle,
Elle l'avait déjà fait, elle était déjà hyper influente.
Ouais.
Et nous, on dit, ok, bah, faites la collab avec elle. De ça naît un sac qui s'appelle le sac Emily de chez The Couples. Et ensuite, ils nous disent, bah, on fait comment pour pousser ça sur les réseaux, pour événementialiser le truc et tout. Et nous, on est arrivé avec un concept qui était de dire, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va dire à Emily de faire un takeover du compte, donc de prendre le compte de The Couples, qu'en parallèle de ça, on va passer le compte de The Couples qui avait à l'époque 400 000 abonnés, on va le passer en privé. Donc là, ils nous regardent avec des grands yeux. En privé, en privé, ça veut dire que personne ne peut voir le contenu si t'es pas abonné.
Ouais.
Et on va changer la photo de The Couples, le logo de The Couples, on va mettre la photo d'Emily. On va changer le nom, on va passer, c'est plus The Couples, c'est The Couples by Emrata.
Ouais.
Et Emily, sur son compte à elle, va faire des posts en disant
venez rejoignez-moi à 18h.
En disant j'ai fait une collab avec The Couples. Et si vous voulez savoir ce que c'est, ben abonnez-vous à The Couples. Et avec ça,
maintenant les influenceurs, ils usent et abusent de ce truc-là.
Ouais, ils usent et abusent. Mais à l'époque,
ça devait être quand c'était tout nouveau. Rien. Ouais. Alors maintenant. Tu vas sur TikTok, les mecs ils sont en train de te filmer quelque chose et puis ils s'arrêtent au dernier moment. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi sur. Toi, t'es l'agent. Non.
À l'époque, personne ne faisait ça. À l'époque, une influenceuse qui disait aller sur une marque, tu y allais. Et là, la page était fermée, quoi. Donc on a eu. Je sais plus le chiffre exact, mais on a eu. Je sais plus, en 24 heures, on a dû avoir, je sais pas, 100 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois.
Vache.
Qui sont arrivés, qui sont demandés. Donc nous, on a accepté les gens un à un.
Tu m'étonnes.
Et on a fait un release de la collection juste pour la communauté. Et ça, c'était extraordinaire. Ça a fait un gap dans la communauté Insta de The Couple. C'était énorme.
Tu m'étonnes.
Et donc, c'était ça notre métier. Notre métier, c'était de réfléchir à des concepts pour les marques, pour que la visibilité elle soit augmentée, pour que leur indicateur de performance, qui pouvait être le nombre de fans, les interactions, la visibilité de ce qu'ils faisaient, ben, tout ça, que ça augmente. Et voilà, et de trouver des mécaniques qui ne sont pas forcément coûteuses en termes de production de contenu, parce que finalement, le truc pour Émilie, bah, mis à part faire la vidéo où Émilie, elle dit « suivez-moi », et on l'avait bien léché et tout, elle n'a pas fait grand-chose.
Oui, c'est ça. Mais toi, tu bossais avec les influenceurs, influenceuses pour, parce qu'une partie de la pub, ça peut être passé. Donc, est-ce que tu faisais la relation comme certaines agences font maintenant, tu sais, qui s'occupent de... négocier des contrats pour tel influenceur pour qu'il parle de telle chocobéenne, enfin je sais, tu sais, je dis n'importe quoi, ou tel produit de beauté. Est-ce que vous faisiez ça à ce moment-là ou
ouais on a pris le pas de l'influence très vite. Et dans nos recos, dans nos recommandations pour les clients, on mettait toujours de l'influence, mais nous, notre spécificité, c'était pas de faire de l'influence tu fais un post où tu mentionnes la marque. Mais c'était de l'inclure dans
quelque chose de plus grand, de plus...
dans un truc de contenu.
Pas juste, juste le post, d'accord. Et quel que soit le réseau social.
Quel que soit le réseau social. Mais à l'époque, il y avait Facebook, Insta, c'était
ouais,
tout.
Ouais, c'était tout. Il n'y avait pas TikTok, les machins.
Non.
Twitter. Non. Twitter, je ne sais pas si c'est vraiment un bon lieu pour faire...
Non, c'est pas trop.
Donc, ça veut dire combien de temps ton aventure au sein de Social & Stories?
Bah, en fait, quand on crée Social & Stories, on se rend compte que finalement, on a deux métiers. On a le métier de créateur de contenu, de groupe média d'un côté, et le métier d'agence de l'autre.
Ouais.
Et très vite, on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire les deux, parce que c'est tous les deux grandissent. Donc, on revend la partie média à une autre régie.
Ok.
Et on se concentre sur l'agence. Et l'agence, on bosse 2 ans dessus. Et très vite...
Juste agence de pub.
Agence de pub, okay. De brand content, de social media. Et au bout de 2 ans, on est approché par le groupe Figaro qui nous dit « Vous êtes très fort en contenu et en social media. Nous, on n'est pas aussi avancé que vous. On a besoin d'aide sur cette partie-là. Et nous, en revanche, on peut vous apporter, on peut démultiplier votre force commerciale puisque on connaît tous les annonceurs de la place.
C'est
et
ça.
Voilà. Donc on revend l'agence.
Vous n'aviez pas de mal à vous trouver des clients. Vous n'étiez pas.
Non, mais quand tu es une agence, en fait, le secteur des agences, c'est hyper concurrentiel. Que à ce moment-là, tout le monde commence à prendre les social media. Les très grosses agences y vont aussi. Donc on vivait très bien, mais on savait que avec plus de force commerciale, on était capable de faire beaucoup plus.
Okay, ouais.
Donc l'offre est hyper alléchante et on intègre le Figaro et on commence à créer des synergies.
Et toi, tu lis comment? Enfin, c'est vraiment ça se fait naturellement, cette vente, ou tu te dis quand même l'indépendance entre guillemets, choses comme ça. Est-ce que c'est un truc tu y as pensé?
Je sais que tu
l'as dit plus tôt, que tu t'occupais pas du financier, de l'administratif, etc. Tu es plus sur les opérations, sur l'action. Mais est-ce que quand même, malgré tout, c'est un truc qui est à toi, une partie qui est à toi? Est-ce que tu te poses quand même la question en disant qu'est-ce que ça va impliquer d'appartenir quand même à un grand groupe, où toi, tu vas être un peu noyé dans dans cette énorme chose qui va vous racheter, quoi?
En fait, j'y pense pas trop. En fait, il y a ce côté indépendant où je me dis, nous, on prend des décisions vite parce qu'on est une toute petite structure. Il ne faut pas que ça cesse.
Ouais.
Dans le deal avec le Figaro, on gardait notre indépendance sur la partie avec quel client on bosse, comment on bosse, quel recours on fait.
Tu n'es pas obligé de rester qu'avec les clients du Figaro ou les gens affiliés au Figaro.
Non.
Tu peux continuer à...
Non.
Voilà. OK.
Et puis, si on décide demain qu'il faut faire un partenariat avec Le Monde pour telle marque, on le fera.
OK.
Et eux nous disent, c'est bon, vous ferez. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des synergies, que vous nous apportiez des choses, qu'on vous apporte des choses, mais vous les allez garder.
Et en plus, vous êtes fort, donc ça nous arrange que vous soyez chez nous.
Donc, je ne me pose pas trop la question. Puis, dans le deal, c'est très clair. J'ai pas trop réfléchi à ce côté grand groupe et tout, parce que je m'étais dit, on va garder notre indépendance.
Est-ce que c'est une fierté quand tu sais qu'il y a les mecs qui t'approchent pour te dire coucou, qui te draguent pour te racheter? Est-ce que tu te... Quand même.
Ouais, forcément.
C'est valorisant, tu te dis. Bon, déjà, t'avais quand même travaillé avec des marques top, tu sais, ouais. Quand t'as The Couples, Bash, Sandro qui commence à te faire confiance, de Joss, tu te dis bon, bah, c'est plutôt sympa parce que c'est quand même des marques qui ont un peu pignon sur rue, qui sont très appréciées, etc. Mais là, t'as le Figaro qui arrive, fou.
Ouais, t'as le Figaro qui arrive, on est. Enfin, moi, je suis. Encore une fois, je suis pas très vieux, je me dis c'est incroyable ce qui se passe, quoi. Et je mesure pas ce qu'ils sont capables de nous ramener, mais je me dis c'est trop bien de dire on a acheté pas le Figaro, quoi.
Ouais.
Donc on démarre l'aventure avec le Figaro,
ouais.
Qui se passe plutôt bien parce que on démarre, on les aide beaucoup sur le social à structurer leur offre sociale qu'ils pouvaient proposer aux annonceurs. Ils nous laissent beaucoup de liberté pour créer du contenu chez eux. On a fait par exemple le Madame, le Figaro Madame, qui est quand même un emblème de la presse féminine, nous dit, en fait, nous, on est très fort dans la presse papier, mais sur le digital, on n'est pas très fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on travaille sur un projet de vertical pour ce magazine, uniquement social, uniquement vidéo.
Okay, ouais.
On leur vend le projet et c'est là que naît MAD, qui est un compte Instagram et qui parle de mode avec les codes d'aujourd'hui et qui est en fait la petite sœur du Madame. Et en fait, c'est nous qui le créons dans le Figaro pour le Madame et c'est nous qui l'animons et qui faisons tous les contenus à l'intérieur. Donc en fait, c'est génial parce que on bosse pas pour une marque avec des contraintes d'une marque.
Ouais.
On bosse pour un groupe qui a les chakras assez ouverts sur ce qu'on peut faire. On leur propose des trucs qui sont vraiment très modernes et où je pense pourraient mettre retrouvé dans des... Dans
ça les bouscule un peu.
Ouais, tu vois, dans des réunions comme ça autour de grandes tables avec les numéros 1, 2, 3 du Figaro et en leur présentant MAD. Et quand ils voient le truc et quand ils voient le logo s'animer en 3D... ils nous disent on comprend pas tout mais on pense que c'est hyper cool.
Ok. Bah c'est bien, c'est tout ce dont t'as besoin.
Chakra hyper ouvert, ils nous mettent de l'argent sur la table pour qu'on développe ce projet. Donc ouais franchement ils nous ouvrent créativement, c'était incroyable de pouvoir les aider à se développer, à qu'ils nous aient laissé les mains libres là-dessus. C'était une aventure assez folle.
À part Emrata ou Sam, MAD, est-ce qu'il y a un autre projet qui t'a... Là, qui vraiment a marqué ces années où tu te dis waouh ?
Si, moi, il y a un projet que j'ai adoré. C'est bosser sur une marque qui s'appelle Courbet. C'est une marque de joaillerie responsable.
Oui.
Puisque...
l'or réutilisé, enfin, ouais. C'est recyclé, on va dire.
Ouais.
Recyclé.
Et les diamants sont fabriqués en laboratoire.
Ouais.
Donc lui, il expliquera mieux que moi. Mais,
oui.
Eux avaient besoin de... Ils se lançaient et avaient besoin de raconter cette histoire et de trouver une manière de parler de ce qu'ils faisaient en mettant les bons mots, en mettant une esthétique aussi forte parce que c'est quand même du luxe et qu'on sait que dans le luxe... Tout est très beau et il faut trouver une esthétique et son esthétique pour pouvoir se démarquer. Et chez Courbet, on a développé une plateforme de marque qui était centrée autour du claim sans le bien, le beau n'est rien. Voilà. Et on a développé toute une série de contenus autour de... Des produits évidemment, mais de tout ce côté responsable.
Ouais.
Et on a fait des shootings incroyables avec des photographes qui sont dans l'air du temps. On cassait un peu les codes du luxe, mais quand tu le regardes, tu sais que c'est du luxe.
Ouais.
Et en fait, ça créativement, de travailler sur un claim pour une marque, d'instaurer une plateforme de marque très forte et de le faire en plus dans le monde du luxe. Quand t'es une petite agence, c'est incroyable.
Ouais. Bon, on en parlera la semaine prochaine donc avec Manuel qui je me permettrai de lui
Ouais, bien sûr.
Raconter tout ça. Ok, parfait. Donc, on en parlait, donc vous êtes racheté par le groupe Le Figaro. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides de partir à un moment donné?
En fait, on est au Figaro, on s'éclate la première année. Et puis ensuite, on continue notre boulot d'agence. Finalement, Le Figaro ne nous ramène pas tant de business que ça.
Ah ouais?
Ouais, certainement parce que je pense que c'était un autre business pour eux, de le travail d'agence. Et je pense que...
peut-être une méconnaissance qui les empêche aussi, peut-être de,
ouais, je pense,
de pouvoir vous diriger des gens parce qu'ils ne savent pas très très bien.
Je pense qu'il y a une vraie volonté de leur part de nous aider à nous développer, mais ils ne savent pas comment. Et finalement on n'y arrive pas trop, et du coup on tourne en rond, c'est un peu compliqué, on fait quand même des très beaux projets, mais on se développe pas aussi vite que ce que
j'aurais pu l'espérer. Ouais. Voilà, avec la force de frappe justement d'un groupe comme ça, tu peux t'imaginer tout un peu.
Et je commence à m'ennuyer.
Quand on commence à s'ennuyer, d'accord.
Et je commence à m'ennuyer. En plus de ça, on déménage au Figaro, là où on avait nos propres bureaux avant.
Ah oui, d'accord.
J'emmenais mon chien au bureau avant, je ne peux plus l'emmener au Figaro.
Ah.
Et mon chien...
Pourtant, il faut le dire aux grandes entreprises, un chien dans un environnement de travail, ça apaise les tensions, les gens sont plus détendus. Laissez venir les toutous dans les bureaux. Moi, je... C'est vrai, en plus, c'est prouvé.
Je milite, je lève le point.
On milite. Ok, donc tu peux plus emmener ton...
Je peux plus emmener mon chien et cette même année, mon chien meurt.
Il s'appelait comment?
Elle s'appelait Indy. Elle meurt parce qu'il se passe un truc pas cool. Je l'emmène chez le veto pour une opération de routine. Elle fait une hémorragie interne et elle part. Okay. Elle part. Et je crois qu'inconsciemment, ça m'a mis un choc de me dire, en fait, toi, t'es toute la journée au taf, elle est à la maison. Même si je m'en occupais bien parce que j'habitais à côté de chez moi, donc je rentrais tous les midis la promener, etc. Ouais. Mais je me dis, à quoi bon, tu vois? À quoi bon bosser comme un chien si tu peux pas profiter de tu vois? Je crois que ça c'est inconscient, je l'ai verbalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je commence à m'embêter, à tourner en rond au Figaro. Et
t'as une idée précise parce que tu t'ennuies, mais est-ce que dans ta tête tu commences à avoir l'idée d'un projet ou non? C'est juste tu t'ennuies, t'as envie d'autre chose.
Ouais, j'ai envie d'autre chose, mais je sais pas quoi. Donc je cherche du job, j'ai des propositions, ça me plaît pas, j'ai des trucs sur la table. Entre temps, j'adopte un autre chien. Ma femme m'envoie des mails en me disant regarde ce chien, il est trop mignon.
D'accord, c'est Bandit.
Donc, elle m'envoie un message sur Insta d'un groupe, elle me partage une publication sur Facebook, pardon, d'une asso qu'elle suit, d'une asso qui s'appelle donc l'asso Remember Me, qui est une association qui a un refuge en Roumanie et qui recueille les chiens roumains. D'accord. Et qui va les faire adopter en France.
Okay. Il y a beaucoup de problèmes de chiens des rues en Roumanie.
Ouais, il y a beaucoup de chiens errants. Ils n'ont pas trop de considération pour les chiens.
Ok.
Donc, ils sont pas forcément au max, les chiens en Roumanie.
D'accord. Il y a plein d'associations. Moi, j'en connais une, c'est avec La Réunion aussi.
Ouais.
Parce qu'à La Réunion, il y a aussi beaucoup de chiens. Bah, les chiens ne sont pas stérilisés, donc beaucoup de chiens errants. On n'aime pas, dans certains pays, on n'aime pas beaucoup non plus les chiens. Donc, il y a aussi une asso, je sais, qui fait le transport depuis La Réunion aussi, qui les ramène en France. Et puis, il y a des gens qui viennent les chercher et puis qui leur donnent plein d'amour.
Non, mais ils font un travail formidable.
Ouais. Donc, Remember Me, avec la Roumanie. Okay. Ouais.
Et elle m'envoie la photo de ce chien en me disant... j'avais un beagle avant.
Ouais.
Elle me disait, elle m'a dit... Son message, c'était « Regarde comme il est trop mignon, je sais que tu voulais un chien poilu, viens, on l'adopte. »
Il a quel âge, ce chien, quand tu dis...
Il a 3 ans, il est en Roumanie depuis on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, il est trop beau, il a des longs poils, il ressemble à un golden, mais il est plus petit qu'un golden. Il a des photos sur le groupe, l'asso, incroyable.
Ils avaient léché les trucs, alors.
Ouais. Et je me dis,
Et il s'appelle Caramel, faut le dire.
Il s'appelle Caramel.
Ok.
Il s'appelle Caramel. C'est pas très créatif dans
ouais,
le
voilà,
chat.
Ouais, c'est pas...
Avec Caramel et Caramel, on dit ok, on y va, on l'adopte.
Ok.
Donc on fait le processus d'adoption. Le processus d'adoption, c'est très simple, c'est les gens de l'association qui viennent te parler, qui viennent te dire est-ce que vous êtes prêt à avoir un chien, est-ce que vous savez que les chiens adoptés, c'est pas forcément les chiens les plus faciles.
Puis ils ont déjà 3 ans, donc peut-être il y a des choses.
Il a 3 ans, il a certainement vécu des trucs un peu chelous,
ouais.
On ne sait pas comment il va réagir. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous avez leur environnement qui va bien pour accueillir un chien. Ils voient que nous, on avait déjà un chien avant, qu'on l'avait déjà adopté.
Tu l'avais adopté.
Ouais, je l'avais adopté, elle avait 7 ans.
Ah oui.
Ouais, elle a vécu jusqu'à 12 ans.
Ok.
Mais je l'ai adoptée, elle avait 7 ans.
Et tu l'avais adoptée à la SPA
À l'école vétérinaire de Maison-Alfort.
Ok, ouais. D'accord. Ah ouais.
Donc je l'avais adoptée à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et je savais que c'était. En fait, et ça, c'est un bon tip pour les gens qui veulent adopter des chiens. C'est que moi, comme je savais pas trop si je voulais un chien au départ, je me suis dit, je vais adopter un vieux chien.
Ouais.
Je suis sûr que je vais lui donner de l'amour, c'est certain. Mais si jamais. Si jamais c'est trop, j'aurais pas à le faire vivre toute sa vie.
D'accord.
Tu vois.
Ouais.
Ça peut paraître un peu horrible.
Quelques années. Non, mais c'est que quelques années, on va dire.
C'est que quelques années. Il a déjà vécu 7 ans. Ça peut paraître un peu horrible comme ça, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne philosophie parce que les chiens plus âgés, c'est des chiens plus calmes. Donc du coup, c'est plus facile.
Facile à prendre en main, peut-être. Ouais.
Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils vivent du coup moins longtemps. Donc, si tu t'attaches énormément, t'as moins de temps avec eux.
Ouais.
Tu vois ? Ça, je m'en suis rendu compte, t'avais des pentes.
C'est ça. Ouais.
Donc, pour en revenir à Bandy, donc Caramel.
Il
encore,
s'appelle encore Caramel.
Il s'appelle encore Caramel. Donc, il est en Roumanie, on dit ok. Ils nous font la prévisite.
Ouais.
Ils voient qu'on avait déjà adopté un chien, donc ça se passe très bien. Et ensuite, on va chercher Bandy à Livry-Gargan, à côté de Paris, puisque en fait, tous les chiens qui sont promis à l'adoption sont mis dans un camion qui fait Roumanie-France.
Ah waouh. Mmh. Ah oui, d'accord.
Bah oui, association peu de moyens, donc ils s'occupent très bien des chiens, mais les chiens passent quasiment 24 heures en cage. Donc autant te dire que quand ils ouvrent le camion, ça sent très bon là-dedans. Autant dire, en Roumanie, ils n'ont pas fait le shampoing avant de partir.
Ah non.
Donc on est tous là à Livry-Gargan dans le jardin de la trésorière de l'association. Le camion arrive et les personnes sortent les chiens un à un en disant Caramel, il est pour qui? Ah, c'est moi.
Bonjour.
Et donc là, on récupère Caramel, quoi.
Ouais.
On récupère Caramel qu'on renomme Bandy tout de suite.
Ok.
Et Bandy arrive à la maison. Et ça se passe très bien.
Ouais.
Ouais, ça se passe très bien, très craintif.
Oh, ouais.
Mais ça se passe très bien. Et il apprend à vivre avec nous.
Pas de problème de santé, pas de.
Non,
non ça va.
Non, Bandy, c'est un rock. Bandy, c'est un roumain qui a tout vécu, je pense.
Il a tout vécu, le gars.
Mais Bandy, c'est un. Il est dur comme de la pierre.
Ok.
Donc, pas de problème de santé, tout va bien. Très craintif, très attaché à nous, très vite. Il a peu confiance en les gens, donc on l'éduque et on continue à l'éduquer. Mais ouais, on est trop heureux d'avoir un nouveau chien dans la maison. Ouais, c'est
coup de foudre,
évidemment. Un chien qui est... Tu te dis, il a vécu en Roumanie, il était trop mal. Et maintenant, son plus grand kiff, c'est de venir te faire des câlins, quoi. C'est juste genre trop heureux.
C'est la vie, quoi. Ok.
Donc on adopte Bandy, je suis encore à l'agence.
Ouais, t'es encore au Figaro et donc tu peux pas trop l'amener au boulot.
Je peux pas l'emmener.
Ouais.
Mais Bandy, c'est, tu vois, il est tellement heureux d'avoir été adopté.
Ouais.
Et la petite histoire, c'est que le jour où on l'a adopté, pendant 36 heures, il a pas fait ses besoins. Tellement il avait peur dans la rue et tout.
Ouais.
On l'a emmené chez le véto en disant, on ne comprend pas, il ne veut pas faire pipi. Vous avez dit, bah non, c'est juste qu'il est stressé.
Ouais, c'est ça.
Et donc, Bandy, sa passion, c'est d'être à la maison dans son panier. Bandy, je lui dis, on va se promener. Il dit, non, non, je reste dans mon panier.
Moi, je suis bien là. En plus, il y a des beaux tapis et des beaux paniers chez Bandy, la marque.
Il l'avait pas encore.
Il l'avait pas encore. Mais alors là, j'ai envie de te dire, il a encore moins envie de sortir, les gars. Ok.
Et donc tout Randy est hyper bien à la maison, tu vois. Hyper bien à la maison, il est trop content, il fait pas de bêtises.
Et ta femme, elle pouvait l'emmener, elle fait quoi dans la vie ta femme? Elle pouvait l'emmener au boulot ou...
Ma femme, à l'époque, elle bossait chez Talent Agency, qui était une boîte d'influence.
Ok.
Et elle pouvait pas l'emmener au bureau, je crois. Parce que c'était fait racheter par Webedia.
Webedia.
Elle pouvait pas l'emmener au bureau.
D'accord.
Donc il reste à la maison, mais plutôt détente là-dessus. Hein. Toujours pareil, je le promène, je vais le voir très souvent. Enfin, je veux dire, le matin, je suis avec lui.
Oui,
t'es
présent pour lui.
Et en fait, très simplement, quand Bandit arrive, c'est comme quand t'as un enfant à la maison, tu rachètes tout, quoi. Tu rachètes le panier, ouais. Tu rachètes le collier, tu rachètes la laisse. Et là, en fait, on se rend compte avec ma femme. En allant dans les animaleries, on se dit, mais c'est hyper chiant, quoi. Hyper chiant. T'as le choix entre un collier en cuir rouge ou un collier en cuir noir ou un collier en cuir beige, à la limite, quand t'as des folies. Tes laisses, elles sont toutes pareilles. Et les paniers, bon, c'est plutôt classique, mais c'est pas forcément très qualitatif. Mm-hmm. Donc on se dit, bah non, en fait. Pas possible, quoi. Nous, on est plutôt coquets, tu vois. Moi, j'aime bien changer de basket tous les jours. Bah, pourquoi on ferait pas ça pour les chiens?
Ouais.
Et donc là, en fait, sans vraiment se dire qu'on va monter une boîte, on se dit.
Tiens, c'est une idée.
Regardons, quoi.
Ouais. Ce qui se
donc,
fait.
Ouais, on regarde ce qui se fait. Moi, je tombe sur un truc aux US qui est pas mal, qui fait des trucs juste en nylon, mais assez beau, avec des nylons un peu de toutes les couleurs et tout. Mm-hmm. C'est assez cool. Ensuite, on va chiner des tissus dans des magasins de tissus. On achète des tissus, puis on se dit, ah, ça serait cool de le mettre sur des sangles. On achète des boucles en laiton.
Mais comme ça pour vous, pour juste pour Bandy, pour habiller Bandy?
Non, on avait une idée derrière la tête, évidemment.
Comment ça arrive, ouais, l'idée alors? Comment tu t'es dit? Comment ça devient beaucoup plus concret?
Bah comme ça, en fait. Comme ouais,
ça se fait
disant,
naturellement en disant.
En disant, attends, il y a rien.
En France,
il y a rien en France. Aux US, il y a des trucs, mais pas forcément incroyables. Il y a pas de grosses marques. Mm-hmm. On est plutôt inspiré d'ailleurs par les petites marques qu'on voit aux US. Et on se dit, déjà, essayons de faire un produit. Si on voit que c'est bien, on essaiera de le vendre.
C'est quoi le premier produit auquel vous pensez?
C'est un collier.
Un collier.
Un collier, tout simplement. On se dit, on va faire un collier. On va prendre du nylon, du laiton. On va mettre du tissu sur le nylon. Et on changera le tissu au gré de nos envies. Quand on trouve un tissu à consonance rouge, on mettra du nylon rouge en dessous. Et notre objectif, c'est de faire des trucs colorés, fun, dans la tendance. Pourquoi pas de faire des collections comme les maisons de mode.
Ouais.
Et voilà. Donc, on achète des tissus, on achète du nylon.
Et là, vous êtes constitué en société
Non.
Juste brainstorm.
Brainstorm, ouais.
Ok. On est au stade brainstorm.
Brainstorm.
T'es toujours employé
Ouais, je suis toujours employé.
C'est sur tes week-ends.
Voilà. Je vais voir ma mère, elle coule le premier proto, je le regarde, je le mets sur mon chien, je le teste, tout ça cool. Je le montre à des gens, ils me disent c'est sympa. Tout le monde me dit ouais, c'est sympa.
T'as toujours ton premier collier?
Non, je l'ai plus.
Ah.
Je l'ai mis. Tu as raison, je sais plus où je l'ai mis. C'est un truc avec des ananas.
Ah.
Donc on teste, on fait ça, on regarde, on montre à des gens, les gens nous disent c'est un collier, quoi. Donc voilà.
Un peu d'enthousiasme, quel diable!
Non, mais les gens disaient, vous êtes des fous, vous allez faire.
Et puis, la mode pour chien, pardon, le pet, pet fashion.
Puis moi, j'ai un pote qui a monté un fonds.
Ouais.
Je lui en parle. Ah, c'est cool.
Un fonds d'investissement?
Ouais, un startup studio. Donc, c'est des gens qui cofondent des boîtes avec des entrepreneurs, mm-hmm, qui les aident
qui
financièrement.
Qui prennent des petites parts et voilà, contre.
Les aident à développer.
Aide financière, ouais.
Donc je vais le voir pour du conseil, c'est cool. Lui a objectif de se lancer dans la un projet de se lancer dans la nourriture pour les animaux.
Ok.
Qui était l'Eldorado depuis 4 ans, tout le monde se lance. Ouais. Il y a des boîtes qui se lancent toutes les semaines sur la nourriture pour chiens.
Et même pour toi, là, dans le pet, je dis le pet fashion, mais c'est plutôt le pet wear, on dit, pardon. Mais alors, j'étais sur Instagram, j'ai liké et je me suis abonnée à votre compte. Depuis, je suis spammée de dizaines de comptes de bouffe pour animaux ou de colliers de... Mais j'en peux plus, quoi. Je sais pas, je vous aime pas, c'est pas vous. Laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai que la nourriture pour animaux personnalisée, etc., c'est très...
Ouais, il y a eu un gros travail de beaucoup de boîtes qui ont fait un bien fou à cette industrie qui était vieillissante. Ils ont fait des super recettes, des services.
Même pour le barf. Il y a même des sociétés, alors le barf, pour les auditeurs, le barf en fait c'est de nourrir les animaux de façon du cru en fait, avec des os, parce que les animaux faut qu'ils mangent tel type d'eau, plusieurs types d'eau, plusieurs types de viande, plusieurs apports d'huile, de végétaux, enfin bref, c'est toute une recette adaptée à chaque chien, et il y a même des sociétés qui se sont où on peut acheter tous ces sacs de viande avec pile la ration pour le chien, mais que de la viande issue de boucher, voilà, donc...
toutes ces boîtes se développent, elles se développent plutôt bien et elles font le job, quoi. Et donc moi je parle de mon projet pour les accessoires, il me dit ouais c'est bien, moi je développe un truc pour la bouffe, tu veux pas venir faire le truc de bouffe?
Il s'est lancé lui?
Ouais, lui s'est lancé et il m'a proposé au début de lancer avec lui le truc de bouffe.
Ok.
Donc moi je lui dis bah je réfléchis, puis je lui dis non moi je la bouffe, tout le monde fait ça bien, fais-le si tu veux, il y a certainement un truc à faire en plus.
C'est quoi sa société, tu veux en parler ou
ouais ça s'appelle Veeto, V-E-E-T-O, ouais.
V-E-E-T-O, ok, je le mettrai en lien sur ton article si les gens sont intéressés.
Ils se lancent, ils font un truc top, et ils me proposent au début d'y aller, moi
ça te plaît pas, parce que
non parce qu'en fait moi j'avais mon truc d'accessoire et que je trouvais ça cool, tu vois. Donc, on lance, une fois qu'on avait le premier produit, on s'est dit, ok, on y va. On trouve des tissus sympas. On commence à faire, je crois qu'il y avait 3 motifs au départ, sur des colliers. On avait fait des bandanas aussi dès le début. Donc, le collier, mais avec un petit triangle en plus.
Et t'as fait appel à un atelier ou c'est ta maman? C'est pas ta maman qui continue à...
Alors ça, c'est une autre histoire. Alors, t'imagines bien que moi, venant d'agence, je connais très bien tout ce qui est digital et je me dis, créer le site, pas un problème.
Oui, ça, tu peux le faire, il n'y a pas de souci.
Faire les photos, j'ai quand même un réseau avec l'agence de gens.
Puis les réseaux sociaux, faire vivre tout ça, pas de souci.
Ça va, vous voyez pas trop de barrières.
C'est plutôt multifonction.
Mais bon, créer les produits, c'est quand même un autre bordel. Donc là,
parce que là, tu te lances dans le monde de la couture, de la confection, du textile, c'est autre chose. C'est ça.
C'est un autre réseau, quoi, que j'ai pas.
C'est ça. Donc comment on fait ça?
Donc là, il y a un mec qui me dit la couture à Paris, c'est le sentier, quoi. Je dis ok. Donc je réunis de la matière première, je fais un croquis sur mon ordi de ce que c'est un collier, des dimensions, de où je veux placer le.
Ouais.
Voilà, donc
la boucle, machin, c'est
ce qu'on appelle communément un dessin technique. Mais je savais pas à l'époque que ça s'appelait un dessin technique. Pour moi, c'était juste des cotes, quoi.
Un collier, quoi.
Le patron. Donc, et là, je prends mon courage à deux mains, je vais dans le sentier, je tape à des portes.
Mais comme ça.
On m'avait donné un premier contact, je crois. Et je suis allé voir ce contact. Lui m'a dit va voir un tel.
Okay.
Je vais voir un tel. Je tombe dans un atelier dans le fin fond du sentier avec plein de gens, plein de machines. J'arrive devant un monsieur qui est très grand, très imposant, avec un fort accent russe et qui me dit « Tu veux quoi, toi ?» Je lui dis « Moi, je veux faire des colliers. Je veux en faire tant. J'ai la matière première et je voudrais savoir combien ça coûte. » Il me dit « Ok, j'ai compris. Laisse ça là, reviens dans une semaine. » Ok. Donc je laisse le truc là, je passe une semaine, je retourne le voir, j'arrive dans l'atelier, véridique, j'arrive dans l'atelier devant ce même mec, et il me dit, qu'est-ce que tu veux toi?
Oh, bonjour monsieur.
Et je lui dis, vous vous souvenez pas de moi, je suis venu la semaine dernière pour faire des colliers. Il me dit, t'es venu la semaine dernière pour faire des colliers? Je lui dis, mais oui, je vous savais, j'ai... Il me dit, ah oui, c'est vrai. Bah non, on l'a pas bossé dessus. Donc reviens la semaine prochaine. Donc là, je me dis, ça pue. Ça pue.
Je reprends
mon sac à dos. J'avais laissé un peu de matière première chez lui. Donc un peu chiant quand même, parce qu'il faut que je reprenne de la matière première et tout. Et là, il y a plusieurs rebonds après. J'ai une personne du sentier qui me dit, bah écoute, il y a une couturière qui s'est exportée du sentier, qui allait à Villejuif.
Ok.
Va la voir, elle a l'habitude de faire du patronage, donc c'est-à-dire qu'elle est toujours en début de collection, elle fait les patrons, elle ajuste les tailles et tout. Elle ne fait pas normalement de production, donc c'est-à-dire qu'une fois que le patron est fait,
elle le repasse à d'autres gens qui s'occupent de...
Elle le repasse à d'autres gens, il dit va la voir. Donc je prends mon scoot, je vais à Villejuif, et je rencontre Emma. Et en fait, Emma c'est une couturière formidable, qui est à Villejuif. Je lui parle de mon truc... Et tu sais, à chaque fois que je parlais de mon truc, dans les gens, on sentait, ils me disaient, quoi, des colliers pour chiens, mais nous, on fait de la mode.
Ok.
Et elle me dit, des colliers pour chiens, mais c'est génial. Moi, j'ai deux carlins. J'adore.
Ok.
C'est trop bien.
Enfin, j'ai trouvé.
Donc, elle me dit, reviens, je sais plus, trois jours après.
Ouais.
Et je reviens trois jours après, et j'arrive, et là, sur sa table de couture, il y avait tous mes colliers de fait, avec les bons nylons, les bons tissus et tout. Et là, je peux te dire émotion quand même.
Ah ouais.
Émotion de voir les produits. J'en avais fait un, mais d'en voir cinq ou six, incroyable. Et elle me dit, bon bah voilà, je prends tant de temps pour le faire, ça va me coûter tant.
Elle était toute seule, elle, ou elle a un atelier avec plusieurs...
Toute seule. Quand je commence avec elle, elle est toute seule.
Ok. Ouais.
Elle me dit, voilà, ça coûte tant de le faire. Je lui dis, mais attends, toi, tu fais de la prod. Elle me dit, ouais, le truc comme ça, ça m'éclate. Je peux en faire un peu, tu vois.
Ok.
Je lui dis, mais t'as des minimums de commandes et tout. Elle me dit, non, on s'en fout. Ce que tu veux, ce que tu veux.
Ok.
Tu veux, trop bien.
Super.
Donc, je retourne quand même voir mon ami.
Oui, le russe.
Ouais, le russe.
Notre ami.
J'arrive et il me dit, il me refait pas le coup de t'es qui toi.
J'imagine, mais il me dit, le running gag, quoi. Ouais. Ah, bonjour.
Il me dit, non, j'ai pas fait et tout. Je dis, bon, écoute, rendez-moi la matière première.
Oui, quand même, moi mes tissus.
Tu me rends le truc, ça se passe bien. Hein.
Ah oui, pas de problème.
Juste très impressionnant.
Oui.
J'ai perdu du temps avec lui. Enfin, oui. Perdu du temps, je crois que c'est... Oui, je crois que la deuxième fois que je suis allé le voir, je me suis dit tout de suite, il faut que je trouve un autre truc. Et donc, du coup, je démarre avec Emma sur la prod.
Okay.
Je finance le truc. Ça coûte pas bien cher. Hein, ça coûte pas bien cher. C'est quand même de l'argent, mais j'ai pas besoin de faire des prods de fou.
Mais t'as toujours pas démissionné ?
Non, je suis toujours pas démissionné. Ah, okay. Là, je suis encore en train
de... Ok, donc tu mets ton argent perso pour faire les premiers produits avec Emma. Ouais. Elle toute seule dans la ville juive, etc. Et voilà.
Autant te dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'économie sur ce sujet.
C'est parce toi qui fais la sélection de tous les tissus.
Avec ma femme. Ma femme m'aide beaucoup.
Vous vous rendez où on va où pour trouver des tissus?
On va au marché Saint-Pierre, à Paris.
Ah, d'accord, ok.
On va au marché Saint-Pierre, on se dit, ouais, ce tissu, il est bien, on va le faire.
Et t'achètes des rouleaux, des trucs.
Au début, j'achète pas grand-chose. J'achète 3-4 mètres. Okay. Tu sais, sur les petites bandes c'est. T'as 3-4 mètres déjà, t'as beaucoup de...
Oui, tu fais beaucoup de colliers, ouais.
Il n'y a pas de perte parce que c'est que des bandes, donc... Donc on fait une première prod que je finance. Il n'y a aucune économie sur le produit puisque... Enfin, économie dans le sens... Il n'y a pas de modèle économique sur le produit parce qu'en fait, j'achète les boucles hyper chères parce que je les achète par 10. J'achète le tissu hyper cher parce que je l'achète par 4 mètres. J'achète le nylon hyper cher parce que je l'achète par...
C'est en toute petite quantité, donc forcément tu payes.
Mais je me dis, si on veut tester, il faut voir si ça vend.
Et puis il faut montrer déjà ce que tu es capable de faire pour que les gens soient attirés.
Ouais. Et je me dis, de toute façon, si un jour on fait du volume, j'arriverai forcément à acheter moins cher.
Ouais.
Donc on fait les premiers produits, on fait les photos, on met en ligne, et puis février 2019, c'est parti. On lance le site avec. Avec je crois 5-6 produits, des colliers, des bandanas, et c'est tout.
Ok, bandiéné.
Bandiéné. Et en fait, mon obsession, je dis nous parce que ma femme m'aide beaucoup à ce moment-là, l'obsession, c'est d'avoir les retours des clients.
Okay.
Et de comprendre s'ils aiment le produit,
qui va, etc.
Si c'est fonctionnel.
Tu avais eu possibilité de faire plusieurs tailles de colliers pour tester. Voilà, ouais, tu avais déjà plusieurs tailles. Parce qu'il y a petit, moyen et gros. Et c'est cool parce que tu as les races en face. Donc tu sais que ton Saint-Bernard et ton Teckel.
Ouais, on fait les colliers, on met les mesures. Tu sais, moi j'étais à bonne école. J'ai travaillé pour les de mode. Donc j'avais vu les guides détails et tout. Puis on va prendre tous les codes de la mode et on va les appliquer
au collier. Voilà, à ça.
On va faire des super photos du chien en situation, on va faire un beau Instagram, on va partager.
C'est Bandy qui sert de mannequin.
C'est Bandy, il est beau,
voilà, il présente bien, sur lui, voilà. Tout passe sur lui, il a le teint pour, donc...
Donc c'est génial. Donc on fait les photos nous-mêmes, et finalement, tu vois, on dépense pas d'argent, mis à part la prod, on dépense pas d'argent. Je fais le site moi-même, je me mets sur Shopify.
Shopify, c'est une plateforme pour les auditeurs qui permet de créer sa boutique en ligne c'est un peu comme WordPress quand on veut faire un site internet, c'est préfabriqué quoi, on va dire.
En fait, il y a des templates qu'on peut remplir et on peut faire sa boutique juste avec des templates en uploadant, en téléchargeant ses photos, en rentrant le nom de l'article et toute la partie.
Les descriptions, les machins.
Toute la partie paiement, il y a juste en un clic, il faut juste rentrer son IBAN et en fait ça prend les paiements pour nous avec une petite commission. C'est hyper pratique pour ceux qui ne savent pas coder. C'est hyper facile. Donc moi je prends un template, je code un peu plus, rajoute un peu de la marque Bandy, on fait des photos, on met en ligne. Je commence à dépenser de l'argent sur Facebook pour faire de la promo. Donc je commence à faire de la pub et les premières ventes arrivent. Ce qui est extraordinaire avec les chiens, c'est que les gens sont tellement contents de leur chien, ils sont tellement fiers de leur chien et qu'ils publient des photos sur Insta. Donc en fait, les premières photos sur Insta arrivent où le chien porte le truc, des gens qui font des photos... des belles photos, des gens qui nous laissent des commentaires, qui nous taguent. Du coup, on peut utiliser les photos pour mettre sur notre Insta. Et en fait, avec cet effet un peu boule de neige, on se retrouve à avoir plein de contenu. Parce que au début, je crois que c'était une personne sur deux qui achetait sur notre site, qui publiait un truc sur Insta en nous taguant, tu vois.
D'accord.
Et en plus de ça, en tant que bon marketeur qu'on était, que j'étais, je dis, il faut qu'on crée une communauté.
Ouais.
Et moi, je veux que les gens qui achètent chez Bandy, ils aient le sentiment d'appartenir à une communauté.
Une famille, la bande à Bandy.
Ouais. Et là, on crée la bande à Bandy.
La bande à Bandy. Ouais. On peut même acheter une casquette.
Exactement.
Pour dire maintenant, qu'on appartient à la bande à Bandy. Ouais.
Donc, on crée le hashtag la bande à Bandy et on dit aux gens, et on met les... En fait, à ce moment-là, je fais les colis moi-même.
Ok.
Parce que j'ai le stock chez moi.
Ouais. Ah, dans ta maison, tu reçois les...
Ouais, j'ai le stock chez moi.
Tu vas chercher en scooter les trucs chez Emma, tu les ramènes chez toi et tu fais tes petits paquets.
Mes journées, elles sont folles. Je me lève le matin.
Tu vas chez au Figaro, tu fais...
Non, d'abord, je vais à l'atelier.
Ah oui, à Villejuif, donc chercher...
Donc j'habite dans le 20e, je vais à Villejuif, donc à l'autre bout. Je vais à Villejuif, je récupère la prod d'Emma que je prends dans des sacs, je mets sur mon scoot. Je vais à l'agence, je planque le sac sous mon bureau, je fais mon travail à l'agence.
Ouais.
Le midi, je rentre chez moi, je prends tous les colis que j'ai préparés la veille, je les emmène à la poste, à Mondial Relais, à colis privés, à machin. Je retourne à l'agence. En attendant, j'ai mangé un petit sandwich sur mon scooter.
Ouais.
Je rentre à l'agence et le soir, je rentre chez moi, je fais des colis. Donc, je fais des journées. Ma journée, elle commence à 8h sur mon scoot. Elle termine à 23h à faire des colis. Mais ça m'éclate.
Ouais.
Mais ça m'éclate, j'adore ça. Je fais des colis, je mets des petits mots. À chaque client, je mets un petit mot. Parce que je demande, quand les gens achètent un produit chez nous, je demande le nom du chien. Donc, je mets toujours un petit mot pour le chien.
Coucou Rufus, voici ton collier.
Voilà, tu vas être le plus stylé du quartier. Bienvenue dans la bande à Bandy. On fait plein de mots comme ça.
Donc là, Bandy, là, t'as monté la boîte ou t'es en auto-entrepreneur ou t'es.
J'ai monté la boîte.
Ouais,
oui, j'ai monté la boîte. J'ai fait des statuts avec un de mes potes avocats.
Ouais.
Je n'ai pas trop pris la tête. Je fais la boîte. Je gagne pas d'argent, je rentre de l'argent, je le ressors tout de suite pour la prod.
En fait, tu fais comme, si je peux me permettre, comme around studio.
Ouais.
C'est vraiment, on verra quoi. Enfin, ça m'éclate, il n'y a pas vraiment de considération de je vais devenir patron de mon entreprise, tu vois, le truc un peu.
Moi, je m'en fous de devenir patron. Moi, je voulais faire un truc qui plaise aux gens, un truc
qui te plaise toi.
Qui plaise moi. je voulais faire un truc où, qui me sorte de mon quotidien où je me faisais un peu chier au Figaro. Donc, je fais un truc pour m'éclater. Donc, tu vois, le statut, je fais le statut.
Oui,
voilà.
Un truc
Et je me dis, ce qu'il faut, c'est que les gens soient heureux. Et ouais, quand les gens seront heureux et qu'on aura du volume, on réfléchira à comment on fait de l'argent.
Ok.
La marge. Voilà. Et donc...
tu vends tes colliers.
Je vends mes colliers, ça va.
Et des bandanas aussi, parce qu'il y avait ouais, colliers et bandanas pour commencer. Ça marche pas mal.
Ouais, ça marche bien. Là, je me dis, bah, il faut faire des laisses et des harnais. Mais sauf que les laisses, bah, il faut doubler le nylon parce que tu vois, c'est deux couches.
Ouais. Hein,
voilà. Sauf que Emma, à ce moment-là, elle me dit, bah, moi, je peux pas parce que j'ai pas les machines. Parce que moi, j'ai des petites machines et il faut des
là,
grosses machines.
Donc là, tu rentres dans un autre...
dans un autre truc. Okay. Et les harnais, c'est pareil.
Et le nylon, tu te fournissais aussi au marché Saint-Pierre et
non,
tout ça, non?
Le nylon, j'avais trouvé un fournisseur. C'était du nylon militaire, très épais.
Ah, et bien ouais, solide. Mmh. D'accord,
avec
okay,
des coloris qui étaient bien
qui
pour plaisait, moi.
Qui plaisaient, ouais.
Qui étaient bien avec les tissus qu'on avait. Donc là, je me dis, bah, il faut que je me remette en quête d'un atelier.
D'autres fournisseurs, ouais, et d'un atelier ouais, pour ce nylon plus épais.
Et là, c'est ma femme qui me sauve parce qu'elle trouve un contact d'un atelier dans le 20, qu'on croyait être dans le 20e et qui finalement est un atelier dans le Nord qui avait des bureaux dans le 20e
okay,
et qui était un atelier qui faisait du militaire. Enfin, qui fait toujours du militaire. C'est de la voile. Qui s'appelle l'industriel textile.
L'industriel textile, ok.
Et donc...
Alors le militaire, les chiens, comment tu leur présentes les bah toutous ouais, et les chats, parce qu'il y a aussi ouais, les... c'est vrai qu'on parle beaucoup de la bande ouais, aventure, mais il y a une partie aussi
ouais,
pour les matous.
Bah, je dis à l'industriel, je vais rencontrer donc, le patron de cet atelier et je lui parle de mon projet et il me dit oui bah c'est bon, pas trop de conviction. Et il m'a avoué, un an après, il m'a dit au début j'étais très perplexe. Et il me dit je trouve ça extraordinaire qu'on en soit arrivé là. Mais il était très perplexe au début parce qu'évidemment, lui, il fait des matériels pour militaires, il est sur des gros appels d'offres.
Ouais.
Et moi, j'arrive et je lui dis faites-moi des laisses et des.
J'en ai besoin d'une ouais, petite centaine, s'il ouais, vous plaît.
Donc, en fait, je rentre dans cet atelier.
Ouais.
Et je fais des laisses et des harnais, ce qui m'ouvre un marché un peu plus grand parce que tout le monde n'est pas des colliers et les
ouais,
gens aiment bien mettre des harnais.
Et ça, c'est en combien de temps? Parce que quand tu as lancé donc, les colliers et les bandanas, donc on est en février 2019.
Mmh. Ouais.
Et les laisses et les harnais, ça va vite quoi en fait.
4 mois ou 5 mois
après.
Ah
oui, d'accord, ouais, donc c'est hyper rapide mmh, en fait.
Ouais, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, donc là je suis encore à l'agence et là bah, le flot de commandes ne fait que grandir.
C'est au bout de combien que tu te dis, là, c'est chaud?
En fait, à aucun moment, je me dis, ouais, c'est chaud. Je me dis, je tiens,
okay,
je tiens.
Ça va le faire,
ouais,
voilà.
Et en fait, un jour, je vais déjeuner avec Marc, qui était donc le fondateur de Melbook
oui,
à l'époque.
Marc Ménès.
Qui, entre-temps, avait monté un fonds, enfin, qui venait tout juste de monter un fonds, donc Founders Future. Et je vais déjeuner avec Marc, parce qu'on s'entend très bien depuis qu'on a travaillé ensemble et on se voyait régulièrement. Et je vais le voir pour lui parler, enfin pour qu'on fasse un déjeuner. Et puis, on avait l'habitude de se raconter un peu nos vies. Et je lui dis, bah écoute, ouais, au Figaro, voilà comment ça se passe. Je commence à tourner un peu en rond, j'en pète. Tu vois, bon, bah, tu me donnes des conseils.
Ouais, ouais.
Je lui parle aussi de mon autre pote qui avait son...
Oui,
la je lui dis, ah ouais, il veut me lancer là-dedans, t'en penses quoi? Tu me donnes son avis. Et puis en fin de déjeuner, je lui dis ah ouais, au fait,
petit projet.
Pour me marrer, j'ai lancé Bandit. Tu vois, c'est quoi? Je sors mon téléphone, je monte le site et je lui donne. Il regarde le site, il relève la tête, il me regarde et il me dit mais c'est extraordinaire. Il me dit bon, on en fait quoi de ça?
Ok.
Et là, je fais comme ça, on en fait quoi? Il me dit il faut que tu fasses quelque chose de ce truc. Donc, je me dis, bah, je sais pas, je n'ai pas du tout réfléchi à ça comme ça.
Pour l'instant, ouais, ça me plaît, c'est ouais, cool, avec Emma dans son ouais, petit atelier.
Et il me dit, bah, moi, je veux t'aider et je veux, voilà, je veux que tu développes parce que je pense que ça, c'est un très fort potentiel. Quoi. Donc, je lui dis, écoute, Marc, moi, je pars en vacances la semaine prochaine. j'ai pas trop réfléchi à ce truc, mais je te promets, j'y réfléchis, on en reparle quand je reviens de vacances.
Ok.
Donc, on prend rendez-vous pour 3 semaines après. Hyper motivé et tout. Je pars en vacances.
Les vacances sont bonnes.
Toutes les vacances, toutes les vacances, je cogite. J'écris un peu le truc. Ouais. Et c'est là que je commence à écrire un peu l'histoire de Mandy en me disant...
Oui, parce qu'en fait, t'as lancé ça hyper naturellement.
Ouais.
Mais...
J'avais pas fait de business plan.
C'est ça. À un moment donné, il faut peut-être un peu structurer, écrire. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Comment je veux le faire? Peut-être pour, juste pour avoir une piste de marche.
Ouais. Donc, je dis...
Trois semaines après, avec ton petit cahier.
Ouais, j'ai, bon, en tant que bon mec d'agence, je fais une presse. Je raconte un peu ce que c'est Bandy, ma vision. Okay. Je mets les chiffres qui vont bien. Et je retourne le voir trois semaines après. Je lui dis, écoute, j'ai bossé, voyons-nous. Et il me dit, écoute, ça tombe bien, moi aussi j'ai bossé. Je dis, ok. Je viens ici, dans les bureaux dans lesquels on est là.
Ouais.
Je lui présente mes trucs. Et lui, il me dit, écoute, bah, moi, pendant ces trois semaines, j'ai demandé à mes équipes du fond là, de regarder toutes les marques qu'il y avait dans l'accessoire et dans la food. On a rencontré des gens. J'ai un peu plus appréhendé ce secteur. J'ai encore plus envie qu'on fasse un truc ensemble. Donc là, je fais, ah ouais, ok, trop bien.
Et toi, tu t'es déjà dit que tu pouvais avoir quelqu'un faire rentrer, parce que l'entreprise, elle est toute jeune, ça marche bien. T'avais déjà pensé, imaginé, genre on va faire rentrer, forcément pour gagner en importance, il faut de l'argent, il faut investir pour passer une échelle, etc. Mais enfin, c'était pas une...
Non, moi je m'étais dit, je fais ça très bien tout seul, ça marche très bien, ouais. Ça va à la vitesse que ça va et je développerai le truc. Quoi. Voilà,
ça va venir quoi.
Et j'ai pas forcément besoin d'argent parce que pour l'instant je le finance et que tout l'argent que je gagne, je le réinvestis.
C'est ça, ouais.
Ça perd pas d'argent, que je travaille à côté.
Oui, donc t'as pas besoin d'avoir un salaire autre, on va dire.
J'arrive à faire fonctionner le truc et je me suis rendu bien compte qu'à un moment ça allait.
Au niveau du taux horaire, même toi tu vas t'épuiser au truc. Là,
mais j'y avais pas pensé, tu vois.
D'accord.
Et puis quand Marc me parle et quand Marc. Et connaissant la relation que j'ai avec Marc, connaissant le background de Marc, connaissant
j'ai regardé un peu son profil LinkedIn. Il investit, il a marqué serial entrepreneur.
Marc, il a investi dans beaucoup de boîtes.
Ouais.
Il
connaît bien le monde de l'entrepreneuriat, pour dire des choses comme ça.
Il connaît très bien le monde de l'entrepreneuriat, il connaît très bien le monde du e-commerce, donc de la vente en ligne. Et donc, il a des réflexes que moi, je n'ai pas à ce moment-là.
Ouais.
Donc, en fait, quand il me dit « j'ai envie de t'aider », je ne vois pas trop le côté financier, même si évidemment, quand on parle de chiffres, je me rends bien compte que ça va m'aider à accélérer. Mais je vois surtout le côté « je vais prendre des raccourcis grâce à lui ». Et en fait, à chaque fois que je vais avoir une problématique…
Lui va peut-être avoir la…
Lui va avoir une réponse et va m'éviter de me casser les dents.
Ouais.
Et va vraiment me faire prendre des raccourcis. Donc en fait, c'est une évidence. C'est une évidence, et quand il me dit on y va, c'est une évidence. On s'associe, je lève des fonds auprès de Founders Future.
Ouais.
Et évidemment, la condition, c'est que je quitte le Figaro pour me mettre à temps plein sur le projet.
Ouais. Bon, ça, quitter le Figaro, c'était pas non
plus. Non, c'était pas non plus, mais bon. Quand même.
Non, mais je veux dire, tu l'as pas fait, enfin, t'avais pas de la peine de quitter le Figaro. Ça s'est fait tranquillement.
Non, j'ai pas de peine, mais quand même, une petite appréhension de me dire, on se lance.
Oula, là, je vais me jeter, parce que c'est vrai que t'avais un beau filet de sauvetage, en fait, le Figaro.
Moi, j'étais bien,
Figaro. T'étais bien, quoi.
Je me jette dans le grand bain en septembre 2019.
Ouais.
Septembre 2019, j'ai plus du tout de.
Bah, c'est Bandy, en fait.
Ouais.
Tu as ton entreprise.
Ouais.
Et là, par contre, jusqu'à présent, comme tu disais, tu lances ton entreprise parce que voilà, ça te plaît, etc. Est-ce que là, par contre, il y a un petit shift, un petit changement où tu dis, ah, donc là, je suis patron de mon entreprise. Là, ça, est-ce qu'il y a une prise de conscience, un truc plus...
Ouais, je me dis, il faut que je le fasse marcher.
Là,
maintenant,
il faut que
je le fasse marcher.
Voilà.
Mais sans me dire, je vais faire une multinationale, en me disant, je me donne des bons objectifs.
Ouais.
Et je sais qu'en atteignant ces objectifs, j'aurai créé une petite entreprise qui est quand même peut-être un peu d'avenir.
C'est quoi tes objectifs alors ?
Bah, mes objectifs, c'est de développer mon chiffre d'affaires, développer ma clientèle et de développer mes produits. Parce qu'en fait, mon ambition n'était pas de rester sur le collier.
Juste le collier et le bandana.
Voilà, mais c'était de développer toute la partie accessoire pour animaux.
Okay.
Et donc, en fait, en 2019, bah, jusqu'à octobre 2019, je fais des colis.
Ouais. Ah,
quand même. En novembre 2019, je prends un logisticien, ouais, et je lâche toute cette partie qui me fait un bien fou.
C'était facile à trouver ton logisticien parce que...
Non, c'était très dur parce que c'était le moment où j'ai lancé des médailles pour chiens et où j'avais besoin que mon logisticien soit capable de les graver.
Ah, c'est ton logisticien. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Bah, je pouvais le faire graver ailleurs, mais ça, ouais, voulait dire...
Non, mais c'est trop
quand
de...
j'ai une commande, ouais, je le fais graver là, machin, ça transite.
Ouais.
Et que moi j'ai envie que le client final il l'achète en, et il le reçoive aussi vite, ouais, que s'il achetait un, ouais, juste un collier.
Ouais.
Donc je tombe sur ce logisticien qui s'appelle GD Laser, qui est spécialiste de la personnalisation, qui n'avait pas trop un métier de logisticien à la base, mais c'est pas grave, moi j'étais tout petit aussi, donc on apprenait ensemble.
Voilà.
Et en fait, GD Laser capable de me graver mes médailles sur la ligne de préparation de commande.
Ah ouais.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la préparation de la commande d'un collier et la préparation de la commande d'un collier plus d'une médaille.
Ok. Là, ton appartement reprend vie.
Exactement.
Parce que t'as plus...
ma cave aussi. Parce que
t'as plus ton stock au milieu, ouais, du salon. C'est sympa.
Et je fais mon premier Noël bandit. Ouais. Donc là, gros pic de commandes à Noël.
Ah ouais, j'imagine.
Et ouais, on finit l'année super bien. Enfin, je finis l'année super bien. Et là, je me dis, ben, maintenant qu'on a un peu de fonds et maintenant qu'on a un peu de traction, on va recruter. Et en fait...
Et ta femme, elle s'était mise avec toi ou...
Non, ma femme, elle continue son job.
Elle continue
ma
son
femme,
job.
Elle continue elle son pas, job, mais elle est très pas... impliquée, ouais, elle m'aide beaucoup, un soutien incroyable, mm-hmm, très très clairvoyante, ouais, sur les problèmes, un goût extraordinaire, et c'est elle qui a fait tous les premiers, enfin qui m'a aidé sur tous les premiers designs, et c'est elle.
Tu vas toujours au marché Saint-Pierre ou là depuis t'as quand même...
Non, parce que je me suis rendu compte en fait qu'avec le volume,
ouais, là tu peux plus.
Bah, je pouvais acheter, ouais, mais c'était possible que 2 mois après, quand je retourne pour acheter le même motif, il y soit plus.
Ouais, pas forcément.
Donc je prends des freelances et puis je fais imprimer le tissu en France.
D'accord.
dans un atelier qui fait de l'impression textile. Et donc je sais plus ce que je disais.
Bah, que ta femme avait été une grande, ouais, inspiration, beaucoup de goût,
incroyable,
etc.
On n'aurait jamais fait Bandi sans elle à ce moment-là, jamais.
Ok.
Ouais.
Mais là il faut recruter.
Et là il faut recruter. Et tout le monde me dit bon bah si tu recrutes bah recrute quelqu'un de très opérationnel qui va gérer le site, gérer les stocks, faire un peu tout
suisse,
et
quoi.
Tout. Et moi, je dis, bah non, en fait, je veux pas faire un couteau suisse, je veux pas d'un mouton à 5 pattes parce que ça se trouve pas, c'est pas possible. Et tu peux pas demander à quelqu'un de faire 10 000 choses parce que... parce qu'au début, elle le fera, mais qu'au bout d'un moment, ça va être trop compliqué. Mmh. Donc, je me dis, je vais recruter des spécialistes. Et mes 2 premiers recrutements, c'est le contenu et le service client.
Okay.
Parce que pour moi, ouais, c'était le cœur de notre métier.
Chouchouter les clients.
Ouais, chouchouter les clients et surtout faire vivre la logistique. Pas tant pour gérer les commandes des clients, mais pour gérer tous les flux avant. Puisque du coup, comme on est fabricant,
ouais,
on doit... commander à nos fournisseurs de la matière première,
les envoyer dans les machins, ouais, les envoyer à Emma ou
à l'industriel textile,
voilà,
et les faire transformer, les faire envoyer chez notre logisticien et ensuite que ce soit expédié chez nos clients.
Ouais, donc il y a quand même un chemin de...
Il y a des flux, voilà, qui sont, ouais, hyper importants, qu'il faut maîtriser, avec une gestion de stock aussi et une gestion des approvisionnements, mm-hmm, en fonction de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc j'ai besoin de quelqu'un là-dedans. Donc je recrute 2 personnes. Incroyable.
C'était facile de les trouver.
Je me rappelle pas avoir eu de grosses difficultés. Je me rappelle avoir pris beaucoup de temps,
ouais,
pour rencontrer des gens, pour parler avec eux.
C'est la première fois que tu avais ce...
Non, parce que j'avais déjà beaucoup recruté à l'agence.
Ah, d'accord, ok. Ouais. Oui, donc c'était pas... Ouais. C'est ça, c'est une question que j'aime bien poser à tous les chefs d'entreprise que je reçois. C'est est-ce qu'il y a des métiers que tu as découverts en devenant chef d'entreprise? En ayant ta boîte, qu'est-ce que... Bon, toi, toute la partie textile, on a bien compris que tu la découverte. Mais est-ce que dans les métiers du chef d'entreprise, du patron, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres?
En fait,
tu t'attendais pas.
Le contenu, je le découvre pas parce que j'ai vécu là-dedans dans l'agence tout le temps. Donc je sais exactement quoi faire et je rencontre des gens et je les teste sur des petits trucs et je sais tout de suite ce que je veux. Mm-hmm. La logistique, par contre, j'y connais que dalle.
Ouais.
Je poste une annonce, je reçois plein de CV, mais le truc, c'est que je poste les deux annonces en même temps. J'ai énormément de trucs sur la partie contenu, un peu moins sur la logistique. Je rencontre beaucoup de gens sur le contenu, je me forge une opinion assez vite. J'ai trois personnes que j'aime bien. J'en parle avec Marc. Marc fait des entretiens avec moi. Donc il est très présent, tu vois, très présent, toujours là, à m'aider, à m'accompagner. On se met d'accord sur une personne, c'est OK. Et là, je me dis, mais attends, j'ai aussi posté la logistique et je m'en suis pas occupé. Donc, et puis, j'avais quand même l'impression de regarder les CV de la logistique. Donc, je me dis, OK, bon, je vais reprendre de zéro et je vais relire tous les CV que j'ai reçus. Allez, j'en avais écarté, ça se trouve, je me suis planté. Je reprends tous les CV et là, je me rends compte que je suis passé à côté d'un CV, mais qui était THE CV, quoi. Okay. Je tombe sur le CV d'Agathe, qui est en poste chez Veja, la marque de chaussures.
Ok, ouais.
Qui a développé la logistique chez Veja alors qu'ils étaient zéro et alors que maintenant ils sont je sais pas combien. Et qui me dit j'adore les animaux, j'ai envie d'un nouveau challenge. Et elle m'avait envoyé ce truc, je sais pas, il y a le moment où je le redécouvre. C'était 20 ou 30 jours après, tu vois.
Ah ouais.
Donc là, je me dis, merde, putain, je suis passé à côté de ça, c'est pas possible.
Ça se trouve, elle est déjà...
Ouais, elle a partie, déjà été recrutée. Elle crépite, elle va aller ailleurs, tu vois.
Forcément.
Donc, je crois que je lui envoie un mail où je l'appelle. Et je lui dis, ouais, je suis désolé, je suis passé à côté du CV. Est-ce qu'on peut se voir? Je serais ravi de vous rencontrer. Voilà mes dispos.
S'il te plaît.
Et elle me répond... Et elle me dit, OK, je suis dispo, et on se voyait genre 2 jours après. Je la vois, et premier entretien, 5 premières minutes, je savais que c'était elle.
OK.
Et j'en parle à Marc, il me dit, ah, déjà, et tout, il me dit, elle est bien humainement et tout. Je dis, ouais, elle est incroyable. Il me dit, vas-y, on y va. Et donc, du coup, voilà comment j'ai recruté mes deux premières personnes.
Les deux premières personnes. Et maintenant, vous êtes combien chez Bandit?
Bon, ouais, pas beaucoup plus, hein, on est 4.
On est 4, ok. Ouais. Ouais.
Enfin, on est 4, on est 4 plus moi.
4 plus toi, donc
ouais.
5.
Ouais.
Ok. Et la gamme s'est étoffée? Parce que maintenant...
Ouais, alors on passe notre année à développer la gamme de colliers,
ouais.
À ouvrir des nouveaux produits. Donc, on fait des gamelles, on fait des tapis de gamelles. On développe les produits comme ça, on ouvre des gammes. On travaille pendant 6-8 mois sur un panier pour
ouais.
chiens qu'on sort en octobre.
Il est top, hein.
Et ouais, on sort un panier.
Un mémoire de forme et tout ça.
Ouais. Mais en fait, on se dit, à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire un produit qui n'existe pas sur le marché.
Ouais.
On ne veut pas faire un copycat de choses qui existent. On veut changer un peu des trucs. Soit on change parce qu'on apporte... De la mode entre guillemets, ou en tout cas un peu de style,
du fun, du style,
parce que
etc.
les colliers, on n'a rien révolutionné, on
soit
a juste rapporté du style,
ouais. Soit une praticité,
soit un truc pratique et une qualité qu'on n'a pas ailleurs. Et ce qu'on se dit quand on voit les paniers, moi quand j'achète des paniers pour mes chiens, c'est qu'ils se détruisent très vite, que souvent les chiens ils finissent par se retrouver presque sur le sol parce que la mousse elle est pas terrible en dessous,
ouais.
Que le chien, quand il a des accidents dans son panier, ben, il faut déhousser et il faut que le panier soit déhoussable. Il n'est pas toujours déhoussable.
Ouais.
Que en général, la
mousse
en
dessous... Que ça n'est pas
taché
en dessous, on connaît. On connaît.
Donc, je discute avec Agathe qui s'occupe de la logistique mais qui m'aide sur le produit. Je lui dis, on va faire un panier. Et moi, ce que je veux, c'est que la mousse, elle soit top du top et que la housse, elle soit imperméable, lavable et qu'on apporte notre touche de fun Bandit sur les imprimés. Mmh. Et en fait, on passe un an à sourcer des tissus, à tester l'étanchéité.
Ouais.
On passe du temps à chercher de la mousse. On passe des copeaux de mousse à des blocs de mousse. Moi, je voulais faire des paniers à mémoire de forme parce que je sais que les chiens ont des problèmes d'arthrose une fois qu'ils sont vieux. et que les paniers alimentaires de forme, t'en trouves pas tant que ça. Et je voulais faire toutes les tailles de paniers parce que je savais aussi que les gens qui ont des très gros chiens, ils ont parfois des problèmes à trouver des paniers et des paniers beaux. Et donc, on passe un an à travailler sur nos fournisseurs. On travaille avec Emma sur un proto de housse. Et pour sortir en octobre 2020, le panier Bandise, qui est en fait un panier avec un tissu imperméable, qui est un tissu d'ameublement qui est utilisé dans les grandes maisons d'ameublement, qui est complètement imperméable, que tu peux laver de manière infinie en machine. On a réussi à faire imprimer ce tissu avec nos motifs et avoir une définition qui est assez assez incroyable. Et on travaille un modèle de mousse, donc une découpe de mousse avec de la mousse qui est de la mousse de matelas pour humains. Donc c'est-à-dire que les matelas que tu as dans le commerce, c'est la même mousse que nous, et les matelas mémoire de forme, c'est la même mousse que nous. Donc le chien a son lit à lui, qui est top qualité, 100% made in France, tout est sourcé en France. Et on sort ce panier avec un enjeu pour nous parce qu'on sort un produit qui est plus cher que tout ce qu'on vend ailleurs. Donc on a un peu peur parce qu'on se dit les gens ont l'habitude d'acheter chez nous et on est plutôt moyenne gamme et on arrive avec un panier qui dans les prix est assez haut de gamme. Et en fait on a un accueil incroyable du produit où les gens nous disent on révolutionne pas le design du panier puisqu'on fait un demi canapé.
Oui, c'est comme un mini canapé, c'est mignon.
Mais très fonctionnel quand même parce que moi je voulais qu'il y ait un petit rebord parce que je voyais mes chiens qui avaient l'habitude de bien aimer mettre leur tête sur le rebord. Donc on sort ça et les gens accueillent de fou, les gens nous disent c'est la qualité est là, que leur chien passe du temps dans le panier, que la mémoire de forme ils ne l'avaient pas trouvé ailleurs, que le panier XXL pour les très gros chiens ils ne l'avaient pas trouvé ailleurs, qui plus est avec la mémoire de forme ils ne l'avaient pas ailleurs, que certes il y avait un coût mais que le bénéfice produit, ils le voyaient et qu'une fois qu'ils avaient reçu le produit, le prix n'était plus un sujet.
Une considération. Et j'ai vu aussi que vous aviez des. Pour tout ce qui est lavage pour les animaux. Les shampoings, les soins. Ça, c'est quelque chose que tu achètes ou c'est aussi développé chez Bandi?
En fait, on commence avec les accessoires. Mais moi, mon ambition, c'est de développer 4 gammes. C'est les accessoires, la maison. Donc tout ce que tu vas mettre dans la maison, dont les paniers, les soins, la partie santé.
Oui, avec les compléments alimentaires.
Dans chacune de ces catégories, je veux qu'on développe des produits qu'on trouve pas ailleurs, ou en tout cas qu'on trouve ailleurs, mais qu'on va révolutionner.
D'accord.
Donc on commence avec les accessoires.
Ouais.
On se teste un peu dans la maison avec les paniers.
Ouais.
Et j'avais vraiment envie de faire du soin. Et j'ai un pote qui a une super marque qui s'appelle Carzon, qui est une marque parisienne qui est vendue en ligne. Je dis parisienne parce qu'ils ont une boutique à Paris.
Je mettrai leur lien. De toute façon, je mettrai toutes les infos pour les auditeurs dans ton article.
Qui font des trucs super pour les humains. des shampoings, des sprays pour les mains, de la lessive qui sent incroyablement bon. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Ils ont une super DA. Il s'avère que Pierre-Alexis, donc le fondateur de cette marque, a un chien. Et que nos chiens vont se balader ensemble au bois de l'enseigne.
Il est habillé en Bandi.
Et un jour, je parle avec Pierre-Alexis et je lui dis, écoute, tu sais, moi j'ai super envie de développer un shampoing, mais j'y connais rien. Ça te dit pas qu'on fasse un truc ensemble.
Métier,
Et il me dit, c'est incroyable que tu me parles de ça, parce que moi, ça fait des années que je veux faire un shampoing. Mais que je n'ai pas la légitimité, en tout cas que je ne pense pas avoir la légitimité pour le faire. Mais il me dit, moi j'ai déjà des formules qu'on peut travailler, des bases de formules qu'on peut travailler.
Vous avez tous les deux vu que vous avez tous les deux des chiens. Je suppose que vous avez tous les deux un vétérinaire aussi qui est capable de donner des infos au cas où, tu sais, parce que tu peux avoir peut-être peur dans les formules que ce soit trop agressif pour la peau parce que tu as des chiens. Tu parlais de carlin tout à l'heure, je sais que les carlins, les problèmes de peau... c'est une horreur, etc. Alors que tu as d'autres chiens, tu leur mets n'importe quoi, les mecs qui sont à toute épreuve. Peut-être que ça peut faire aussi peur de se lancer dans un produit comme ça en te disant « Oula !»
Ce qui est clair, c'est que moi, je voulais pas le faire tout seul. Je savais pas faire, quoi. et que j'avais besoin de spécialistes. Il me dit, moi, je travaille avec des spécialistes dans des labos.
Ouais.
On va travailler la formule. Donc, on travaille sur une formule. On savait à peu près quelle texture on voulait que ça ait. On savait qu'on voulait un maximum d'ingrédients naturels. Ensuite, on travaille sur les parfums parce que lui est très fort dans les parfums. Donc, on trouve un parfum. On voulait un parfum qui soit hyper concentré parce qu'on voulait que le chien il sente bon et qu'il laisse une traîne, tu sais.
Comme une femme qui laisse voilà, un petit peu son empreinte.
Et en fait, on sort un shampoing tous les deux. Kerzon X Bandy, vendu chez nous, vendu chez lui. Moi, je fabrique en parallèle une brosse, puisque moi, spécialiste d'accessoires, je fabrique une brosse qui va bien avec le shampoing, une trousse aussi pour mettre les accessoires. Et on sort tous les deux en partenariat le shampoing Bandy X Kerzon juste avant Noël.
Ouais, ça marche bien.
Et ça marche hyper bien. Et lui en vend une tonne dans sa boutique. Moi, je m'en sers. Enfin, ça devient un accessoire cadeau.
Ouais.
Parce que quand t'as la petite trousse de soins, on t'offre ça à Noël, c'est très cool. Et pareil, on a des super retours sur la senteur que les gens trouvent incroyable, qui te suit un peu partout. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé le soin. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment on travaillait le soin. Et du coup, là, on travaille maintenant en solo, du coup, toute une gamme de soins aux animaux. Ouais.
D'accord. Toi, Bandy,
Moi, Bandy.
Indépendamment.
Moi, Bandy. Alors après, je prends beaucoup de conseils auprès de Pierre-Alexis.
Ouais.
Mais voilà, on travaille avec un labo qui est spécialisé là-dedans.
Ah ouais.
On crée nos propres formules parce que l'idée, c'est encore une fois de...
Oui, c'est Bandy, tu ne prends pas un produit qui existe, machin. C'est toi qui es à l'initiative de la création du produit. Mmh. Mais ça, en fait, tu n'arrêtes pas. En fait, avec tout ce que tu es en train de faire et de créer pour Bandy, en fait, tu pénètres dans des mondes. En fait, tu n'arrêtes pas d'aller dans différentes industries et de découvrir plein de choses, quoi, parce que c'est un autre métier encore là.
C'est un autre métier, mais en fait, avec tout ce côté textile que je ne connaissais pas, je me rends compte que j'ai besoin d'experts, j'ai besoin de gens qui sont très forts. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer énormément de temps avec eux pour comprendre.
Et t'imprégner.
Je vais peut-être pas tout comprendre, mais au moins, je vais comprendre ce qu'ils font.
Comment ça fonctionne,
Et je vais tirer d'eux le maximum et essayer, tu vois, par exemple, sur la formule. Ben, en fait, il y a plein de trucs. J'ai essayé de comprendre chaque ingrédient. Et à chaque fois qu'il y avait un ingrédient où je me posais des questions qui étaient des questions légitimes sur la naturalité,
l'innocuité, est-ce que c'est safe, est-ce que
exactement, c'est voilà, je posais des questions et si ça m'allait pas, je disais on trouve une solution alternative. Et en fait, je challenge comme ça tout le temps de façon à arriver au meilleur produit et aux produits qui nous ressemblent parce qu'ils transpirent nos valeurs.
Mmh. Et donc, c'est la même chose pour les compléments alimentaires parce que là aussi, nouveau, bon, t'as des potes qui sont dans l'alimentation animale, mais les compléments alimentaires, c'est encore autre chose.
Alors ça, c'est l'histoire du confinement.
Ah, je m'ennuyais pendant le confinement, du coup, je me suis dit,
Bah ouais, j'avais un peu de temps chez moi
pendant le confinement. Je m'emmerdais un peu. Quoique toi, t'as l'avantage d'avoir un chien, donc tu pouvais sortir.
Ouais, je pouvais sortir.
Ça, c'est cool.
Je pouvais sortir et le business a bien marché pendant le confinement, donc je m'ennuyais pas du tout. Mais au début du confinement, je me suis dit, je veux développer ces quatre gammes et la santé, qu'est-ce qu'on fait? Que évidemment, je voyais tous ces gens qui se ruaient vers la food et j'ai essayé de comprendre ce marché de la food et de comprendre pourquoi ils faisaient tous des formules différentes. Et qu'est-ce qui faisait aussi que, malgré toutes ces formules différentes, les chiens, ils avaient quand même des problèmes à des moments, tu vois.
Oui.
Un chien, ça perd ses poils. Un chien, ça a des problèmes de digestion. On ne va pas rentrer dans les détails. Un chien, c'est anxieux, comme Bandy.
Mm-hmm.
Donc, il y a des problèmes liés au chien. Et que tous les gens qui font de la nourriture essayent de faire le max, mais on a quand même des problèmes.
Ouais.
Donc en fait, j'ai parlé à énormément de vétos. C'est bien parce qu'ils avaient beaucoup d'attention à ce moment-là, parce qu'on était tous en visio et on se parlait. Et honnêtement, j'ai dû parler à une trentaine de vétos spécialistes dans la nutrition pour essayer de comprendre et pour voir si en fait, les problèmes que j'avais identifiés, qui étaient des problèmes récurrents ou sur des moments donnés, c'était des problèmes qui étaient liés à la nutrition ou qui pouvaient se traiter par la nutrition. Et comment on faisait pour traiter de manière naturelle, sans aller dans les médicaments, ouais. dans le côté très vétérinaire et tout. Et en, au fil et à mesure de ces discussions, je me rends compte que, ben, en fonction des périodes de la vie du chien, ouais. il y a des carences nutritionnelles.
Ah oui, qui se créent, ouais.
Qui se créent parce que, ben, parce que tous les chiens sont différents et que, en fonction de leur poids, de leur âge, de leur état de santé, de leur activité physique, ben, tu vas développer des carences comme nous.
Oui, en oui. fait.
Et que changer de nourriture à chaque fois qu'on développe ses carences, c'est pas possible. Parce qu'il y a une transition donc, alimentaire hein, chez le
ouais,
chien.
Ouais.
Donc en fait, en apportant des aliments complémentaires, tu viens nourrir ses carences pendant un temps donné et tu permets au chien d'aller mieux assez vite et de retrouver un état normal.
Okay.
Et que tu peux avoir la meilleure croquette de la terre, tu peux pas avoir une croquette qui va s'adapter aux carences de l'animal. Donc en fait, de ça est né, de toutes ces discussions est née l'idée du complément alimentaire par cure, qui était de dire j'identifie des problèmes liés aux chiens qui sont récurrents, donc les problèmes d'anxiété comme Bandy a, des problèmes de digestion comme beaucoup de chiens ont sur des périodes données ou liés à la race peuvent avoir des problèmes de digestion. Et les problèmes de pelage, poils gras, poils qui tombent, mue saisonnière.
Ouais,
et en fait, sur ces trois problématiques, on a identifié des super aliments qu'on a concentrés dans des compléments alimentaires, donc que du naturel qu'on a concentré dans des compléments alimentaires, et qu'on va donner en cure à des chiens pour combler ces carences pendant des temps donnés.
Et ça a été facile de trouver des gens qui t'ont fabriqué ces compléments alimentaires ?
Bah, en fait, on a passé quasiment 6 mois à formuler les compléments.
Ah ouais, d'accord.
J'étais accompagné par une vétérinaire spécialiste en nutrition.
C'est celle qui, parce que Bandy a son blog.
Ouais.
Et je sais qu'il y a des vétérinaires qui écrivent sur le blog de Bandy.
C'est Maud. C'est... Ouais.
D'accord, ok, ouais.
Maud qui nous accompagne sur toute la partie nutrition, qui, elle, va créer une formule. Et puis après, j'ai travaillé avec un industriel qui fabrique. Qui historiquement fabriquait des croquettes.
D'accord.
Et qui m'a dit bah, je suis capable de modifier ma ligne de production pour faire des compléments mais toujours sous forme de petites croquettes un peu plus grosses voilà, mais super concentrées en super aliments
avec un bon goût pour que les
avec une très forte appétence pour que ce soit presque des friandises. Et donc, ils ont travaillé de concert. Elle donnait des indications sur ce qu'elle voulait en tant que formule. Lui, aller chercher des fournisseurs de tel
des
et tel
aliment. Pour mettre...
Et pareil, on a passé un an à formuler à
fait,
produire.
En fait, on n'imagine pas que le temps que ça prend de...
Ouais. C'était fou. Et on a fait que trois formules. Enfin, on a fait que trois formules. On a fait trois formules. En fait, on a fait 4 et on en a produit 3.
D'accord. Parce que la quatrième n'était pas.
Non, la quatrième, on s'est dit, on va déjà commencer par en faire
3.
3,
c'est
pas
bien.
Mal. Et après, on verra pour la quatrième.
On a l'impression que pour Bandy, c'est facile. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es cassé le nez, où tu t'es dit, c'est moins facile là.
Ah, je prends beaucoup de raccourcis. Parce que c'est...
oui, non, mais bien sûr. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est cool quand ça marche. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, c'est chaud.
En fait, à chaque fois qu'on a monté un projet, à chaque fois on s'est mangé des murs parce que on n'y arrivait pas. Ou... Tu vois, par exemple, quand on a fait les paniers, on a fait les protos, on trouvait ça hyper cool, on trouve la mousse, et là on se dit on peut pas le faire dans nos ateliers actuels parce que c'est un autre métier. On va chercher un atelier, on trouve un atelier, on se met d'accord. On achète la matière première, on la fait livrer à l'atelier. Et la veille de commencer la prod, il nous appelle en disant en fait le prix qu'on vous a donné c'est pas le prix qu'on va vous faire, il faut compter 3 fois ça parce qu'on s'est trompé dans le chiffrage. Donc nous on avait tout mis en œuvre pour que ce soit lancé un mois après, et on se retrouve un mois avant le lancement à pas avoir de prod, à pas avoir d'atelier pour produire, sachant que quand tu travailles avec un atelier, ben, tu lui fais faire des protos dans un premier temps.
Ben oui, pour visualiser ce que ça va donner, pour changer.
Voilà.
Pour
que lui puisse faire un chiffrage. Ensuite, il faut lui envoyer la matière première et qu'il ait le temps de produire. Donc, par exemple, quand on avait fait les paniers, ben, on s'est retrouvé un mois avant le lancement qu'on avait établi et qui était parfait dans notre agenda. pas avoir d'atelier, quoi. Ça c'était horrible.
Ah bah tu m'étonnes.
Ça c'était horrible. Et j'en ai plein comme ça d'anecdotes, mais en fait à chaque fois on apprend et on baisse pas les bras. Et on baisse pas les bras parce qu'on sait que on sait ce qu'on veut faire et on sait qu'on peut le faire. Et quitte à pousser les murs, on y arrivera, quoi.
C'est quoi les produits là qui sont en développement en ce moment chez Bandit dont tu peux parler, qui vont bientôt sortir? Est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui sont prévues? Parce que bon, vous êtes beaucoup, Bandit fait beaucoup d'actions avec plein d'associations.
Ouais.
Remember Me, il y a eu la SPA de Jeanne Villiers, le Resto des Animaux. Alors ça, c'est super pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est une association qui prend en charge les animaux des personnes qui sont hospitalisées. C'est hyper intéressant, je ne connaissais pas. Et vous avez fait une collaboration avec Nolita, avec des super laisses pailletées, tout ça. Ça a été reversé à la Fondation Assistance aux Animaux. Est-ce qu'il y a d'autres collabs ou des produits là, qui sont en développement dont on peut parler?
Bah déjà, le premier point, la solidarité, on n'en a pas parlé, mais c'est un des piliers de Bandit.
Ouais.
Et depuis le début, on en a parlé, mais j'ai adopté tous mes animaux dans des refuges ou dans des associations. Et donc, quand j'ai monté Bandit, le truc, quand je me suis dit on va faire de l'argent avec des accessoires, c'est que je me suis dit une partie de cet argent on va la reverser à des associations, et une partie de nos actions on va la dédier à mettre en lumière le travail des associations. Donc depuis le début on reverse 1 euro à des associations par commande, en numéraire ça représente à peu près 30 000 euros qu'on a reversé en argent. Et on a reversé aussi beaucoup de produits, dons de produits. Et par exemple, aujourd'hui, avec la team Bandit, on passe du temps avec les assos. On a fait juste avant l'été une journée complète dans un refuge où on a aidé les bénévoles, on a promené les chiens,
on a nettoyé des gamelles, les cages, et tout ça. Ouais.
Et on a emmené plein de matos pour eux.
Pour les toutous. Et puis il y a aussi la newsletter, c'était ça, j'ai vu, vous aviez fait une newsletter, c'était ça la newsletter du cœur, où pour la SPA de Jeanne Villiers, il y avait plein de toutous à adopter, et puis vous aviez fait des super photos, etc., avec les prénoms pour dire machin est à adopter, venez le chercher, etc. C'était hyper.
En fait, on fait des actions pour les mettre en lumière parce qu'on se dit, ok, on a acquis une bonne communauté, mais on peut maintenant pousser des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, on avait fait ça pour la SPA parce qu'à ce moment-là, ils avaient des toutous qui étaient un peu en détresse et qui avaient besoin d'être adoptés à un temps T. On a fait ça. On a fait l'année dernière, au moment de Noël, on a fait un calendrier de l'Avent solidaire.
Ouais.
Où en fait, tous les jours, les photos qu'on publiait sur notre Insta étaient des photos de chiens adoptés.
Ok.
Et tous les assets, toutes les images qu'il y avait sur notre site, c'était en fait des chiens à adopter. Mm-hmm. Et on disait quand les gens se baladaient sur le site, si vous aimez bien et si vous trouvez un chien mignon, en fait, il est adopté.
Ah, trop cool.
Donc, en fait, mon but, c'est de profiter de la lumière qu'on a et de la puissance qu'on a pour aider à diffuser des messages de ces assos. Donc, oui, on travaille beaucoup avec des assos et c'est hyper important pour nous. T'en as cité quelques-unes qui sont incroyables, évidemment Remember Me avec qui on a adopté Bandit,
Clara,
la fondation Clara, chez qui on allait faire la journée avec toute l'équipe.
Alors, cet été,
La SPA de Jeanne Villiers où moi j'avais adopté un de mes chats.
T'as des chats aussi.
Ouais, deux chats aussi.
Il y a les chats. Ils s'appellent comment ces chats? Parce qu'on les a pas beaucoup cités là, les pauvres.
Elles s'appellent Henri et Josie.
Henri et Josie. Ouais. Henri, elle ?
Il.
Ah, il, pardon. Ouais.
Josie. Elle.
Henri et Josie, d'accord. Ça m'aurait pas choqué, j'avais une tortue qui s'appelait Sophie Mathieu parce qu'on savait pas que c'était une fille ou un garçon. Ah, ouais. Donc tu vois, il y a eu bataille. Donc la tortue Sophie Mathieu.
Compliqué pour les tortues.
Voilà, ah bah je.
Il paraît qu'il y a une histoire de. à l'envers de la tortue, si c'est bombé ou pas.
Je, ouais, je sais mais
pas,
je pense que c'était ça. Mon frère et ma sœur qui s'étaient battus. Donc, ah. Même si tu lui avais dit c'est une fille, non, ah, mais oui. Moi j'ai décidé, elle s'appellerait Mathieu.
Je comprends.
Donc, voilà. Donc, Sophie Mathieu, la tortue, rest in peace, parce que depuis elle nous a quitté, Sophie Mathieu. Mais bon, voilà. Ouais. Et puis, vous avez aussi Wire Wildlife, pendant, quand il y a eu les,
ouais.
Les grands incendies en Australie.
Ouais.
Pour, voilà, pour lesquels vous avez travaillé. Et au niveau des produits qui vont bientôt sortir.
Alors, on a une collection de Noël qui arrive.
Oh, d'accord.
Qui va être très très belle.
Ouais.
Je t'ai déjà parlé des soins.
Ouais.
Pour développer.
Ouais. Ça, tu penses que ça sera.
2022,
ouais.
Premier trimestre 2022, ouais. Ça prend un peu de temps, la cosmétique, entre guillemets.
Ouais.
On est en train de préparer, et donc je laisserai le cours, libre cours à ton imagination.
Ouais.
Mais tous les produits qu'il faut, tous les produits essentiels qu'une personne qui adopte,
ouais.
Ou qui accueille un animal, ah, chez lui.
Oui, le pack de bienvenue, ouais. Quoi.
Tout ce dont il a besoin, tous les essentiels.
Okay.
Donc évidemment, dedans, il y aura le collier, la laisse, la médaille, le tapis, mm-hmm. Mais il peut y avoir d'autres choses. Donc il y a plein de... Voilà, je te laisse imaginer.
Des petits jouets, des petites peluches.
Voilà.
Ok, et maintenant, est-ce que tu te sens patron, hein?
Je sais pas trop ce que ça veut dire d'être patron. Est-ce que je sens que j'ai des responsabilités? Oui, parce que j'ai des employés,
ouais.
Et que j'ai de l'ambition pour la marque et que j'ai besoin de la développer. Moi, j'ai des employés qui, sur certains trucs, font les choses beaucoup mieux que ce que moi, je ferais. Donc, eux m'apprennent beaucoup aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que c'est la définition de patron. Est-ce que c'est moi qui tiens la barre? Oui, c'est ouais. Sûr. Mais
c'est toi qui prends les décisions.
Oui.
Tu n'as pas besoin d'être le sachant pour être un bon patron. Ça dépend aussi de ton management, comment tu gères tes équipes. Voilà.
Mais sans mes équipes, on n'y serait pas.
Ouais.
Et on n'y arriverait pas et on ne serait pas là aujourd'hui. Sans Marc qui m'a donné des conseils inestimables, j'en serais pas là. Donc sur le papier, oui, dans les faits, je vis ça comme un travail collectif.
Ok. Et quand tu fermes la porte de Bandy, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes passions à côté?
Écoute, déjà, je passe beaucoup de temps avec mes animaux.
Ouais. Donc Henri, Josie et Bandy. Ouais.
Et je te l'ai pas dit, mais j'ai un autre chien.
Ah, ok.
Ouais, qui s'appelle Suzy, qui est un petit cavalier.
Ah, mais oui, mais on l'a vu tout à l'heure, voilà, tu l'as sorti, ouais.
Donc,
elle est pas avec nous, non, on a Bandy qui fait dodo.
Suzy, elle
est hyper sage, hein.
Ouais. Je te dis, Bandy, ce qu'il veut, c'est être tranquille.
Ouais, il est tranquille.
Puis ils étaient à la balade ce matin, donc il est KO.
Ouais.
Donc déjà je passe beaucoup de temps avec mes animaux,
ouais.
C'est important. J'aime beaucoup voyager avec ma femme, on voyage beaucoup,
ouais.
Et on voyage avec nos animaux, ça aussi c'est un périple.
Ah ouais,
ouais.
Mais les chiens, les chats, ils sont plus
on a déjà fait avec les chats.
Tu loues, ouais. Un van, quoi, tu prends un van et tu...
Non, tu vas dans l'avion.
Ah oui,
ouais.
Oui.
Nous on prend les sacs,
non mais je comprends, moi j'ai toujours eu des... Bon, j'ai eu un Rottweiler Myrtille. Mais les teckels, j'avais des teckels. Les teckels, c'est facile, tu les mets dans leur truc, mais Bandy.
Ouais, Bandy va en soute.
Ouais.
Il va en soute, c'est pour ça que je disais, c'est un rock. Bandy, il va en soute, il est tranquille, ouais, dans sa cage, on le récupère.
Ouais.
Il a tout fait. Donc, on voyage beaucoup.
Ouais.
Et puis c'est déjà beaucoup. Hein.
Ouais.
Non, on passe beaucoup de temps en famille. En famille, je veux dire les animaux et ma femme, on passe beaucoup,
ouais.
De temps tous ensemble, parce qu'on est très bien et que les animaux, finalement, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps.
Ouais.
Et que c'est très agréable de passer du temps avec ces animaux parce que forcément, t'es obligé d'aller à l'air libre.
Ouais, là, t'es obligé de sortir, t'es obligé de.
Donc voilà, ouais, ça. Et puis. Et puis après, moi, oui, j'aime voyager, j'aime tout ce qui est très artistique.
Ouais.
Donc, ça peut prendre toutes les formes, hein, numérique, physique, tout ce que tu veux. Donc, je suis très curieux là-dessus. Donc, je passe pas mal de temps sur Insta aussi.
Le tatouage.
Voilà, tatouage, ça me fait rigoler. au gré de mes envies.
Ouais.
Et voilà. C'est pas mal déjà.
Ah, c'est bien. Non, ça a fait une vie. Et puis il y a Bandy à s'occuper. Donc, Bandy, l'entreprise. Ça prend pas mal de temps. Et puis pour finir, c'est la question traditionnelle de Slice. Pour finir, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont en train de se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, quels sont les conseils que tu leur donnerais pour faire les choses pas trop mal? Tu peux pas leur dire, ayez un marque.
Non, mais le marque, on le trouve en parlant beaucoup aux gens.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a. Il y a parfois des gens qui se disent j'ai un projet, il faut que ça reste secret, on va me piquer l'idée et tout. Mais à partir du moment où tu as déjà eu l'idée, tu as commencé à y réfléchir, tu as déjà pris de l'avance sur tous les autres. Donc parlez-en. Essayez de rencontrer des gens. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont très accessibles. Maintenant, il y a tous les réseaux, on peut envoyer des messages à des gens. Et même si ça tombe dans les oubliettes, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vous répondront. Parlez de votre projet, n'ayez pas peur. Je pense qu'on a peur quand on se lance. Il faut parler, il faut échanger, il faut challenger, il faut avoir un mix entre pas être trop sûr de ses convictions, écouter les autres, et en même temps avoir certaines convictions, ouais, sur lesquelles on,
et ne pas lâcher,
et ne pas lâcher,
et garder son idée.
Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir un écosystème entrepreneurial qui est assez fort, qui favorise des gens qui se lancent. Ouais. Donc parfois, on se dit, je me lance, mais je n'ai pas les moyens, je ne vais pas y arriver. Et en fait, il y a plein d'aides, il y a plein de concours, il y a plein de clubs, il y a plein de gens qui peuvent vous aider.
De ressources en ligne aussi.
Et de ressources. Et même sur la partie financière, il y a parfois des choses qui sont accessibles. Alors, je ne parle pas des levées de fonds, des choses comme ça, mais je parle d'avoir un capital de départ qui aide à tester une première idée. Parfois, les banques peuvent aussi aider sur des petits entrepreneurs qui ont des beaux projets. Elles peuvent aider. Donc, moi, mon conseil, c'est d'être curieux, de parler aux gens et surtout d'essayer de ne pas trop avoir peur. C'est dur, mais n'ayez pas peur.
Faut y aller. On est pas revenu. Emma, tu disais non, quand tu as commencé avec elle, elle était toute seule. Maintenant, ça veut dire qu'elle n'est plus toute seule grâce à toi.
En partie grâce à nous, ouais, je pense. Elles sont quatre maintenant, je crois.
Ah ouais.
Ouais. Et je crois que 80% de ce qu'elles font, c'est du Bandy, je crois.
Comme quoi, t'es arrivé avec une idée, je pense qu'elle ne saurait jamais imaginer. Elle a les plus beaux carlins, les carlins les plus stylés de Villejuif. Ok, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était hyper intéressant, j'étais ravie de te faire raconter l'histoire de Bandy au micro de Slice. Je te souhaite le meilleur. Puis merci encore, et puis je te dis bon courage pour la suite, et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Bye bye.
Merci à toi.
Merci encore à Mathieu de m'avoir reçu dans les locaux de Bandy à Paris pour participer à cet épisode de Slice. Comme d'habitude, vous retrouverez de plus amples informations dans un article dédié sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.